Alors, puisqu'on aborde la paracha de Béchalar, j'ai pensé qu'il fallait qu'on parle un petit peu d'un nouveau sujet. J'ai fait il y a très très longtemps, mais il n'existe pas en... C'est peut-être 10 ans que je l'ai fait. Je l'ai un peu rajeuni cet après-midi, avec ma vieillesse. Alors, quand les bénis d'Israël, ils sont retrouvés au moment du passage de la mer Rouge, de l'ouverture de la mer, donc tout le monde connaît la situation, qu'ils sont devant la mer... Ils ont les Égyptiens derrière eux. Ils disent le Midrash, ils ont les falaises d'un côté et les bêtes sauvages de l'autre. Ils sont bloqués. Maintenant, à ce moment-là, ils disent le Midrash, ils ont hésité. Est-ce qu'ils, si on fait, ils vont avancer dans la mer? Ou alors, ils vont retourner chez les Égyptiens? Alors, cette hésitation-là, elle nous pose une question de fond. Il y a la réaction des Béné Israël eux-mêmes. Et d'un autre côté, il y a aussi... Pourquoi est-ce que HaKadosh Baruch Hu les a mis dans une situation pareille? Vous voyez, ça y est, il y a eu l'Égypte, il y a eu l'esclavage. Après, il y a eu les miracles de la sortie d'Égypte. Après, on est sorti d'Égypte, on a éclaté les Égyptiens, ouais, on a eu tout leur or, et on sort. Ça y est, maintenant, l'histoire, elle commence. Pourquoi maintenant qu'on a fait tout ça, on arrive devant la mer, et il y a la mer? Mais qu'est-ce qu'il veut HaKadosh Baruch Hu? S'il voulait faire passer, eh ben, qu'il leur fasse passer dans le désert directement. Parce que si vous connaissez un petit peu l'histoire, ils sont sortis d'Égypte. Ils sont approchés, disons, de la mer, elle est comme ça. Ils sont approchés de la mer, et ils sont rentrés comme ça, et ils sont retournés du même côté. Ils ont fait une espèce d'arc, de cercle, à l'intérieur de la mer, et ils sont partis dans le désert. Donc, ils auraient pu aller directement dans le désert. Alors, qu'est-ce que c'est, cette histoire? Quelque jour, il les vient, il est mis en face de la mer, et alors, maintenant, on fait quoi, alors? On avance? On retourne? Et eux, ils sont dans ce choix. Donc, nous, on a essayé de comprendre qu'est-ce que Hachem, il a voulu avec ça. Quelle était leur épreuve pour eux, cette épreuve pour les Bnei Israël? Et aussi, quel est le sens même du choix, du fait de mettre quelqu'un en face d'un choix, d'avoir une décision à prendre? Alors pour comprendre ça, on va être obligé comme d'habitude de faire un petit détour. C'est marqué à propos de Noach. Quelle est la différence qu'il y avait entre Noach et Abraham? C'est marqué comme ça. « Et à Elohim italech Noach. » Noach, il marchait avec HaKadosh Baruch Hu. Par contre, il dit Rashi, Veilou Avraham ou Omer, Asher Italarti les Fanav. Que Avraham lui-même, il a dit que j'ai été, Asher Italarti, j'ai été devant lui. Une différence qu'on voit que Noach, lui, il a été capable de marcher à côté d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? De faire ce qu'Akadosh Baruch Hu, il attendait de lui. Alors que Avraham Avinu, lui, on dirait quelque part, il a été capable de marcher devant Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire quoi, marcher devant? Asher Italarti les Fanav. Alors il dit le Midrash, Noach Ayatsa. Noach, il avait besoin d'une aide, il avait besoin d'un appui. Aval Avraham, aya mitrazek ou me'alech me'elav. Mais Avraham, lui, il s'est renforcé et il a été de lui-même. Maintenant, quelle différence on trouve entre Avraham et Noach? Et qu'est-ce que ça peut faire si Noach, il a eu besoin d'aide? C'est pas grave, tout le monde a besoin d'aide. Alors, le Beit Halevi, il explique, il dit comme ça. Noach, en vérité, il a grandi dans une génération où tout le monde était rachat, tout le monde était à côté complètement de la Torah. Et lui, pour s'en sortir, il a eu besoin de l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que malgré qu'il était tzaddik, mais le Yetzarara de la génération, il était tellement fort, que s'il avait simplement, il était resté comme ça, c'est sûr qu'il aurait craqué. Il a eu besoin de l'aide d'Akadosh Baruch Hu pour s'en sortir. Ça veut dire que son mérite à lui, il a suffi à le sauver à lui. Parce que pour tout ce qui est du reste, il a fallu qu'il soit aidé par HaKadosh Baruch Hu. Donc il dit le Beit Halevi, c'est pour ça que Noach, il a été obligé d'aller dans la Teva. Parce que s'il était resté au milieu des autres, il aurait disparu avec les autres. Maintenant HaKadosh Baruch Hu, il l'a protégé, il l'a séparé. Et c'est cette aide d'HaKadosh Baruch Hu qui l'a sauvé. Mais lui, il n'avait pas assez de mérite pour être sauvé parmi les autres et pour sauver les autres avec lui. Par contre, Abraham, il avait un tel mérite, une telle puissance, que lui, non seulement il pouvait exister pour lui, mais en plus, il pouvait même faire exister sa génération. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le grand miracle de Noach, c'est que Noach a été sauvé. Il y a eu le Maboul, et Noach a été sauvé. Mais le grand miracle d'Avraham Avinu, c'est qu'il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé. C'est que les gens, ils ont continué à vivre normalement. Bon, il y a eu beaucoup de balais de Tshuva et tout ça, d'accord? Mais il n'y a pas eu de Maboul, il n'y a pas eu de catastrophe. C'est-à-dire que nous, on trouve extraordinaire quand il y a une catastrophe et que quelqu'un s'en sort. Maintenant, le fait qu'il se passe rien, on trouve ça normal. Alors que c'est faux. Le fait que tout se passe bien, c'est un miracle. C'est comme une famille. On te dit, oh, tu sais, dans cette famille, il y a deux enfants qui ont mal tourné, le père qui a fait une grave bêtise, la mère qui est en dépression, mais bah, au Hachem, tout le monde s'en est sorti. Et t'as une autre famille, il s'est rien passé. Ils ont grandi normalement, ils se sont mariés, le couple, ils s'aiment toujours, ça fait 40 ans qu'ils s'adorent. Tu dis, bon, c'est un couple normal. Un couple normal. Mais c'est un couple extraordinaire. Tu peux les compter sur les doigts d'un manchot. Vous comprenez ou non? C'est incroyable. Mais tu dis, ça n'a rien passé. Ça veut dire que le mérite d'Avraham Avinu, c'est d'avoir permis la normalité. Et le mérite de Noé, c'est quoi? C'est d'avoir permis l'extraordinaire. Qu'on remarque que Noé a été sauvé. Pourquoi? Il dit parce que Noé, lui, il marchait avec Hachem. Alors qu'Avraham, il précédait. Mais qu'est-ce que ça veut dire précéder Hachem? C'est comme si tu dis anticiper sur HaKadosh Baruch Hu. Alors il explique, il dit comme ça, Avraham, itgaber mi'atzmo blosiwa. Avraham, il a été capable de se dépasser sans aide d'HaKadosh Baruch Hu. Mimele od yoter shu mitgaber. Donc plus lui-même, il se renforçait. Yoter ou mizakel doro. Et à chaque fois, il donnait du mérite à sa génération. Ou mimele ou matzil et kulou minakalia. C'est pour ça qu'il a, il a réussi à préserver tout son, sa génération de la destruction. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand nous, on voit que quelqu'un, il réussit dans quelque chose, on dit que celui qui a réussi, c'est celui qui a tout fait pour que ça marche. Donc on dit, celui qui, pour qui ça réussit pas, c'est celui qui a pas tout fait pour que ça marche. Il travaille, il prépare pas son examen. Il est planté à son examen. Quand est-ce qu'il a planté l'examen? C'est pas le jour de l'examen. Il l'a planté toutes les fois où il a pas révisé. Vous me suivez ou non? Le contraire, celui qui a fait ce qu'il fallait, il passe l'examen, normalement. Tu dis, bon, il a passé son examen. Mais quand est-ce qu'il a réussi l'examen? Depuis le début de l'année qu'il a décidé de travailler à chaque jour. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, quand tu vois le résultat, tu sais que ce résultat, il a été mis en place par des jours et des jours. Maintenant, imagine-toi quelqu'un. Non seulement que il a assez mis en place pour garantir son résultat personnel, mais il a même du crédit supplémentaire qu'il peut redistribuer sur les autres. Je sais pas si vous me suivez. En général, toi, tu as des questions qu'on te pose, les épreuves de la vie, et tu essaies de trouver les réponses. Alors, quand tu trouves les réponses, on dit que tu es adapté à la réalité. Comment ça se fait que toi, tu peux répondre à d'autres questions que tu n'as pas eu toi? Quelqu'un te pose des questions, toi tu lui réponds. Tu dis mais c'est pas possible. Parce que toi tu ne peux être apte que à répondre aux questions qui se posent à toi. Comment tu peux répondre à d'autres questions? Parce que comme toi tu as fait des efforts supplémentaires par rapport à ce qui s'était demandé, donc les mérites supplémentaires que tu as cumulés, ils peuvent servir à quelqu'un d'autre. Donc celui qui existe que pour lui, il ne peut répondre qu'à ses problèmes. Mais celui qui est capable d'exister même plus que pour lui, alors il peut répondre à d'autres problèmes. Donc Noé qui n'a existé que pour lui, il a pu à peine sauver sa vie à lui. Et encore dans la Teva. En dehors de la Teva, il serait mort. Mais Noé qui n'a pas existé que pour lui. Hazak. Mais Avraham, qui n'a pas existé que pour lui. Ouais, il a existé pour les autres aussi. Donc ce qu'il a fait en plus, ça c'est le mérite qui peut faire exister les autres. Alors je vous ai déjà expliqué que le mot Srout, le mot Zerout, il veut dire mérite. Il vient du mot zar, qui veut dire pur. D'accord? Maintenant, quand on dit que quelqu'un a du mérite, ça veut dire que quelqu'un s'est purifié. C'est quoi purifier? C'est enlever les impuretés. C'est quoi les impuretés? Quand vous trouvez un minerai dans la montagne, vous avez déjà vu du minerai de fer ou du minerai d'or? C'est moche. Vous croyez que c'est comme chez Van Cleef? C'est moche. C'est un gros caillou plein de tout dégoûtant. Mais c'est parce qu'il est mélangé d'impuretés et d'or. Alors on le fait fondre. Et on sépare les impuretés du minerai pur. C'est pareil. La personne, au départ, elle vient avec du minerai d'or et aussi des impuretés. Maintenant, qu'est-ce que la Torah lui demande? La Torah lui demande de se purifier. C'est quoi de se purifier? Attention, c'est de séparer le bon du mauvais chez elle. Alors, on va dire en français, il faut que tu donnes le meilleur de toi-même. Donc, donne-nous l'or qui est en toi. Et les impuretés, dépose-les sur le chemin. Le fait, écoutez-moi bien, le fait de sacrifier ses impuretés au profit du minerai, en français on appelle ça se purifier. D'accord? Oui ou non? Et en hébreu, on appelle ça avoir des mérites. C'est que maintenant, il n'y a pas de possibilité d'avoir des mérites si ce n'est par le fait que tu as sacrifié les toxines que tu as accumulées chez toi. Et même les toxines originelles que tu as, par exemple, tu viens avec une toxine originelle qui s'appelle la flemme. Il y a des gens comme ça, ils ont what, flemme, mais spécial, hein. Ils se lèvent le matin, ils sentent qu'ils vont mourir. On leur demande un service, ils ont des spasmes. Tu dis, bon, ça va, remets-toi. Ah, j'ai cru que tu allais me demander un service, Ras Vechalom. J'ai eu peur pendant un moment. Donc, comment celui-là, il va devenir courageux? Parce que maintenant, il est une espèce de fossile. Comment il va devenir courageux? Il va falloir qu'il brûle les toxines de paresse. Maintenant, le fait de les brûler, ça purifie son origine qui est d'être quelqu'un de vivant, d'efficace. Donc la seule manière de l'atteindre, c'est d'enlever les toxines. Donc quand il se purifie, c'est comme quand il devient méritant, parce que être méritant, c'est le résultat de quelqu'un qui s'est débarrassé de ce qui l'empêchait d'être méritant. Donc zoré, c'est normal que zoré, qui veut dire avoir un mérite, ça soit la même racine que zar, qui veut dire pur. Vous me suivez ou non? Donc personne d'impur ne peut être zoré à quoi que ce soit. Personne d'impur ne peut avoir un mérite. Puisque le mérite, c'est le résultat de la destruction de l'impureté. Est-ce que vous me suivez? C'est pour ça qu'un tricheur, il n'aura jamais la satisfaction d'avoir réussi un examen. Et il ne sera jamais médecin. Parce qu'il a triché à l'examen. Maintenant, c'est pas qu'on veut le punir. On lui dit, puisque tu as triché, on ne donne pas l'examen. Mais non, parce que l'examen, c'est un passage de maturité pour que tu deviennes, par le biais de l'examen, un médecin. Donc si tu as évité l'examen, tu as aussi évité de lutter contre ce qui t'empêche d'être médecin. Donc tu n'es pas devenu médecin. Même en trichant. Tu dis, mais j'ai le papier. D'accord, alors on va te mettre dans une salle d'opération. On va t'amener un petit vieux qui a des tremblements. On va lui faire une ouverture de 60 cm dans l'abdomen. Et on va lui dire, maintenant, tu fouilles là-dedans.
J'ai pas assisté à tous les séances d'internat. Ah, où t'étais? Au café. Il y a un café en face de la salpêtrière, j'ai fait mon internat là-bas. Alors on va t'interner.
C'est mieux pour les patients.
Ouais.
Pourquoi? Ben c'est marqué dans le Midrash que Noar, il est rentré dans la Teva, Nirnas, Mipne, Me Amaboul. Il est rentré à cause de la pluie du Maboul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il dit, Rachid, il le rajoute, il le rapporte, mais c'est le Midrash qui le dit. Qu'en vérité, jusqu'au dernier moment, Noah, il n'a pas osé rentrer dans la Teva. Comment il est rentré dans la Teva? Parce qu'il a plu. Quand les pluies sont devenues tellement fortes. Alors nous, on dit, je ne comprends pas, mais Noah, on dit, pourquoi est-ce que Noah, il a construit la Teva pendant 120 ans? Pour que les gens, ils aient le temps de faire tes chouva. À chaque fois qu'ils vont demander, mais Noah, qu'est-ce que tu fais? Alors on lui répond, bah, je suis en train de faire un bateau. Tu fais un bateau sur la terre ferme? Il dit, il va y avoir un déluge. Vous comprenez ou non? C'est pareil. Pourquoi tu fais Nishiva? Pourquoi tu étudies la Torah? Parce qu'il va y avoir un déluge. Alors, il dit, quel déluge? Et effectivement, 3 ans après, il vient en pleurant. Tu dis, je t'ai dit qu'il va y avoir un déluge. Il y a un déluge. Non, c'est pas grave. Oui. Donc maintenant, Noah, il voulait pas rentrer dans la Teva. Alors il me dit, Rashi, pourquoi? D'ici, tu vois que Noah, il était Mikatne Amana. Au fond, il avait une petite Emouna. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, quelque part, il était obligé de rentrer dans la Teva. Pourquoi? Parce que Noah, il suivait ce que Akadosh Baruch Hu lui demandait de faire. Mais il n'était pas capable d'anticiper. Il n'était pas capable de prendre une décision. Donc les gens qui ne sont pas capables de prendre une décision, on est obligé de la prendre pour eux. Ou on est obligé de les obliger à la prendre. Comme les gens qui te disent, ah, moi je n'arrive pas, j'attends le dernier moment. Ils attendent que les événements les poussent. Ils attendent la date de la dette. Ils attendent la veille du mariage. Ils attendent que, quand les gens te disent, oh, vous savez, il faut que je me marie parce que mes parents sont très âgés. Je ne vois pas le rapport. Et si les parents sont jeunes, c'est moins important de se marier. Je dis, si, tu comprends, je ne vais pas faire de la peine. Je veux que mes parents ils voient mes enfants. Je n'ai pas compris. Maintenant, tu as 35 ans, alors tes parents sont vieux. Mais quand tu avais 20 ans, tes parents étaient moins vieux. Maintenant, tes parents à 20 ans, ils auraient été contents de voir tes enfants. Ouais? Mais toi? Alors maintenant, à 35 ans, tu crois que c'est parce que tes parents, hein, ils doivent voir tes enfants que tu veux te marier maintenant? Tu comprenez? C'est comme le type qui joue au flipper et qui dit, non mais moi je fais ça pour faire plaisir au cafetier. Je veux pas, le pauvre, il va se déprimer s'il y a personne. Ouais, l'autre, il achète 10 litres de whisky par jour. Il dit, moi, vous comprenez, j'ai peur que la boutique, elle ferme. Donc, je suis pour l'avenir de la France, de l'économie. Bah oui, c'est normal. Faut pas déprimer les dealers. Alors, j'achète de la drogue. C'est... Alors, deux, je me marie pour pas que mes parents, les pauvres, ils voient pas mes petits-enfants. Mais Charlot, si tu penses à tes parents, ça fait longtemps que tu t'es marié. Si tu penses à ta neshama, ça fait longtemps que tu aurais fait tes chouvas. Qu'est-ce que tu parles? Vous comprenez? C'est à l'envers. Ce qui est marqué ici. Noir. La différence, c'est simple. Noah, il ne s'engage pas. Il a besoin de l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Il a besoin de la pression d'Hachem pour le faire avancer. Avram, il s'engage. Il croit dans quelque chose, il s'engage. Il n'a pas besoin de lui mettre la pression. Non seulement il s'engage, mais en plus il anticipe sur ce qu'on lui demande. Ça, c'est la première lecture. Deuxième lecture, c'est quoi? C'est que lui, Avraham, il est capable d'anticiper, c'est-à-dire quoi? De comprendre. De savoir qu'est-ce qu'Hachem attend de lui. Ça, c'est très, très dur. Vous savez, une des plus grandes questions que chacun se pose dans sa vie, c'est qu'est-ce que je suis venu faire sur Terre? Quelle est ma mission? Je fais quoi, moi? Je vends des jeans? Je vends des téfilines? Je fais quoi? Je réveille les gens? Je les assomme? Je les saoule? Je fais quoi? Chacun, il se demande qu'est-ce qu'il fait dans le monde. Bon, globalement, on fait des études, on gagne un peu d'argent, on mange, c'est, on mange, on justifie de manger, on trouve un endroit où dormir. C'est normal, ça. Tous les animaux, ils ont ça. C'est normal. Mais pourquoi tu es venu sur Terre? Alors, il y a des gens, ils savent. Ils anticipent. Ils disent, voilà, c'est ça que je veux faire. Je dois le faire. C'est mon travail. C'est pour ça que je suis venu. Et ils le font. Il y en a d'autres, ils disent, bon, j'attends un signe. Un signe du ciel ou un signe. Je vais bien savoir. Vous comprenez ou non? Alors, Noir, c'est pareil. Noir, lui... Il n'ose pas prendre la décision, ça veut dire quoi? Il n'ose pas rentrer dans la réalité et dire, tendre la main, je vous lui serrer la main et dire, voilà, j'ai compris, je suis partenaire. Noir, il dit, je suis à ton service. Je ne sais pas comment la vie, elle marche. J'attends de savoir. Avraham, il peut anticiper. Mais qui c'est qui peut anticiper sur la tête d'Hachem? Ton prof de maths, tu te doutes un peu qu'il veut que tu travailles les maths. Tes parents, tu te doutes un peu qu'il veut que tu deviennes un homme équilibré. Mais qu'est-ce qu'il attend de toi, Hachem? Très dur. Noir, il trouve ce qu'Hachem il attend de lui. Je vais vous dire pire encore. Vous voyez, c'est marqué par Parashat Lech Lecha. Ouais, un jour, il a dit à Avraham Avinu, Lech Lecha, va-t'en. Alors, tous les commentaires, ils disent, tu sais, la force qu'il a eu à Avraham Avinu, il est parti, et un jour, il lui a pas dit où il fallait aller. Et Hachem, il a dit, c'est pas grave. Ce qui compte, si Hachem il m'a dit de partir, je pars. Alors, il y a beaucoup de commentaires. Il y en a qui disent, des fois, ce qui compte, c'est pas d'aller quelque part. Ce qui compte, c'est de partir. T'es dans un endroit pourri, t'es dans une ambiance débile. Pars d'ici déjà. Rien que pars. T'as fait la mitzvah. Il y en a qui disent non. C'est pour t'enseigner que ce qui compte, c'est le temps présent. C'est pas la fin qui justifie les moyens. Ce qui compte, c'est de faire ce qu'Hachem te demande. Qu'est-ce qu'il t'a demandé? Il t'a demandé. Va-t'en, tu t'en vas. Tu dis, mais où? Non, c'est pas ton problème. C'est pareil. Les gens, tu leur dis, écoute, maintenant, il faut que tu bouges. Pourquoi faire? À quoi ça sert? En attendant, tu bouges pas. Bouge. Le présent. Mais Rabotai, le Ramban, il dit une chose incroyable. Il dit, quand Akadosh Baruch Hu, il a dit Lech Lecha, il a pas dit à Avraham Avinu où il fallait aller. Vous savez pourquoi? Parce qu'Avraham, il savait où il fallait aller. Il dit le Ramban. Il savait qu'il allait en Canaan. Parce qu'en Canaan, c'était le seul pays où les gens y réfléchissaient un petit peu à l'époque. Et puisque c'était des gens qui réfléchissaient, c'est des gens avec qui on pouvait parler, c'est des gens qu'on pouvait faire, se questionner. Donc c'est des gens qui pouvaient avoir une perception d'Hachem. Donc puisque Avraham, il a pris sur lui de diffuser l'existence de Dieu dans le monde, il va aller dans un endroit où c'est possible que les gens, ils absorbent l'idée que Dieu existe. Il va pas aller chez des paysans de la Corrèze, des ramasseurs de patates, et leur dire, l'univers, il marche comment? Le type, il va dire, quoi, l'univers? J'ai faim, je bouffe, quel univers, quoi? Tu dis, non, mais, à part ça, quand il a fini de compter les patates, il en rajoute une, ça fait lui. Vous comprenez? Il savait, Avraham Avinu, qu'il fallait aller en Canaan. Donc, c'est incroyable. C'est-à-dire que, les commentaires, ils apprennent l'Ech Lecha. Vas-y, même si tu sais pas où c'est. Et Ramban, il apprend, non, l'Ech Lecha, va parce que tu sais où il faut aller. Quelqu'un, il sait ce qu'il a à faire. Celui-là, il travaille et il sait qu'il travaille les Shem Shamaim, mais c'est ce qu'il a à faire. Celui-là, il étudie la Torah et il sait que c'est ce qu'il a à faire, il étudie la Torah. Celui-là, il fait les deux et il sait qu'il doit faire les deux. Vous allez me dire, bon, c'est normal. Non. Il y a des gens qui travaillent et toute la journée, ils disent, oh, j'aurais dû étudier la Torah. Comme ça. Donc, ils travaillent pas. Il y en a qui étudient la Torah, ils disent, mais moi, dans le business, j'aurais clinté la baraque. Donc, ils étudient pas. Comprenez ou non? Et même des gens qui font moitié-moitié, Le matin, ils ont le souci. Ils étudient, mais ils ont le souci. Ah, j'ai pas appelé le client, il va m'appeler. S'il m'appelle le matin, je rate le truc. Et l'après-midi, il dit, ah, j'ai perdu toute ma matinée, j'ai pas étudié la Torah. Ça veut dire d'être dans ses pompes. C'est pas évident. T'étudies, c'est l'heure d'étudier. Tu travailles, c'est l'heure de travailler. T'es où maintenant? Quelqu'un, il sait où il va, il sait où il est. Ça, c'est qui? Abraham. Ça veut dire quoi? De la même manière, les Bnei Israël, maintenant, ils sont devant la mer Rouge. Ouais. Et regardez ce qui est marqué. Donc, vous savez tous qu'à un moment, ils sont rentrés dans la mer. Vous avez vu le film, ouais. Alors, regardez, il y a deux psukim dans la parasha de Béchalar qui sont contradictoires. C'est marqué « Vayavou bnei Israël betoch hayam bayabasha v'amaim ayalahem choma miminam ubismolam » Et ils ont été, les bnei Israël, c'est-à-dire ils sont rentrés les bnei Israël, betoch hayam dans la mer, bayabasha, ouais, sur la terre ferme, v'amaim ayalahem choma, et l'eau était pour eux une muraille. Vous savez que la mer, elle s'est divisée en 12, pas comme dans le film. Elle s'est divisée en 12, d'accord? Et que les eaux entre chaque tribu, donc il y a eu 12 couloirs, et les eaux, elles sont devenues transparentes pour que chaque tribu, elle voit l'autre tribu, parce qu'évidemment, chacun, il disait, c'est sûr que l'autre, il n'est pas rentré, donc il se regardait comme ça. En plus, la terre, elle s'est asséchée complètement, et elle est devenue un peu granuleuse pour pas que les gens y glissent. En plein milieu de la mer, il y a des arbres fruitiers qui ont poussé pour qu'ils aient de quoi manger. Des fontaines d'eau douce qui sont sorties, parce qu'il fallait bien boire. On ne peut pas boire de l'eau salée. Il y a beaucoup, beaucoup de midrashim. Comment ça s'est passé, le passage de la mer Rouge? Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est comme ça. C'est marqué ici. Regardez. Enfin, ils ont été les bénis d'Israël dans la mer. Regardez bien. Sur la terre ferme. Et les eaux étaient pour eux, Roma, une muraille. Mais à leur droite et à leur gauche. Et un peu plus loin, ça c'est Passouk Kafbet. Regardez le Passouk Kaftet 29. Regardez bien. Où bénis d'Israël, Al-Khou, et les bénis d'Israël, ils ont été Bayabasha, sur la terre ferme. Betochayam, à l'intérieur de la mer, Vamaim, la M, Chema, Choma, et les eaux étaient pour eux Choma, Miyamin ou Mismolam, à leur droite et à leur gauche. C'est bizarre. À 5 psukim de, ou 7 psukim de différence, la Torah, elle répète deux fois la même chose. Mais on voit qu'elle n'a pas mis les mots dans le même ordre. Vous comprenez ou non? Pourquoi la Torah, elle répète deux fois? Deuxièmement, pourquoi est-ce que la Torah, une fois, elle dit Betochayam, Bayabasha, et une fois Bayabasha, Betochayam? Betochayam, ça veut dire dans la mer. Bayabasha, sur la terre ferme. Et une fois sur la terre ferme, dans la mer. Pourquoi? Troisièmement, pourquoi une fois c'est marqué Choma avec un Vav, ça veut dire une muraille, et une fois c'est marqué Choma avec un point à la place du O? Donc on peut lire Chema. Maintenant, je vous dis tout de suite, Choma, ça veut dire une muraille, mais Chema, ça veut dire la colère. Alors regardez ce qu'il dit le Gaon de Vilna, c'est un hidouche incroyable. Quand les Bnei Israël étaient devant la mer, à Botaï, ils étaient en train d'hésiter. Est-ce qu'on rentre dans l'eau ou on rentre pas dans l'eau? Imaginez la situation. Ils sont devant la mer. Les Égyptiens sont derrière. La plus grande armée du monde. Les bêtes sauvages d'un côté, la falaise de l'autre. Donc il n'y a rien à faire. À Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Moshe Rabbeinu, d'abord les Bnei Israël, ils se mettent à crier. Oh, qu'est-ce qui se passe? Moshe, il entend ça, il se met à crier à Hachem. Il dit, oh, qu'est-ce qu'on fait? Hachem, il dit, je sais pas ce que vous avez là. Avancez. Avancez. Il y a la mer. Il y a la mer là. C'est comme si toi, t'es à Deauville ou je sais pas, au Pas-de-Calais là-bas. Et puis un type, il dit, tiens, on va à Londres. Comment on va à Londres? Mais il y a la mer. Il y a la mer. Tu peux pas. Alors c'est pareil, Hachem. Hachem, il dit, mais qu'est-ce que tu es en train de crier chez moi? Dis-leur d'avancer. Avancez. Alors effectivement, qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a qui ont plongé. Ils ont plongé, Rabotai. Ils sont rentrés dans l'eau. Betor Hayam. Et il y a eu le miracle. Et l'eau, elle s'est ouverte. Et ils se sont retrouvés, Bayabasha, sur la terre ferme. Oui? Ça, c'est les premiers qui ont plongé. Mais les deuxièmes, Rabotai, les premiers avaient déjà plongé. Donc la mer s'était ouverte. Donc eux, ils étaient Bayabasha, sur la terre ferme. Betor Hayam, à l'intérieur de la mer. Vous avez compris le haïdouche ou non? C'est qui dit le Gaon de Vilna. Il y a eu deux groupes. Pourquoi il y a deux psukim? Parce qu'il y a deux groupes. Il y en a qui ont fait l'effort. Ils se sont sacrifiés. Ils ont dit, il y a de la mer, c'est pas grave. C'est à que je vous crois, il a créé cette épreuve. C'est-à-dire qu'il veut qu'on se dépasse. Alors on rentre dans l'eau.
Il y en a, ils ont dit, hey, t'es malade ou quoi? Qu'est-ce qu'on rentre dans l'eau là? Ça va pas? On va se noyer? On va mourir?
Alors, il y en a, ils ont réfléchi, ils ont dit, c'est pas possible. Comment Kadosh Baruch Hu, il nous sort d'Égypte? Il nous met devant la mer, les Égyptiens derrière. Qu'est-ce qu'il veut maintenant? Donc ça veut dire, avance. Ça veut dire, avance.
Ah, les gens, ils ont,
c'est possible. C'est pareil dans tout. C'est pareil. Un type dit, voilà. Tu sais, on a ouvert la boutique, ça fait un an. Je dis, franchement, on a un gros problème. On a 600 000 de découvert. On a 200 000 de stock. On a trois employés au prud'homme. Qu'est-ce qu'on fait? Le gaz, la corde. Ah, il y en a deux. Il y en a, il dit, si on est là, il faut qu'on avance. On va avancer. Tout ça, il dit ça, c'est halom tov, halom shalom. Je vais aller voir fournisseur, je vais décrocher encore 6 mois de crédit, je vais aller voir la banque, je vais lui montrer ma bonne volonté, je vais encore décrocher 6 mois. Les impayés, je m'en occupe, avec leur peau, ils vont payer. Et ils remontent. Là, tu dis, mais la conjoncture, la réalité, il faut être réaliste. Il y a la mer! Il y a la mer, on va se noyer! Ils plongent. Il y a des gens dans la vie, ils voient la mer et ils plongent. Et il y en a d'autres, ils attendent que les autres, ils plongent. On dit en français, ils se mouillent pas. On va voir, si j'en vois qui plongent et que la terre, elle devient sèche, moi aussi, je rentre dans la mer. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, le pasouk, il te l'a témoigné, mais il te l'a dit avec Sniout. C'était gentil avec les ministres, il ne va pas les fracasser. Mais le gars devine là. Il dit quoi? Il dit, tu vois, il y a ceux qui ont plongé dans la mer. Et c'est grâce à eux qu'il y a eu le miracle de la mer rouge. Parce qu'ils ont cru. Et comme ils ont cru, Akadosh Baruch Hu, il a remontré qu'en vérité, la réalité, c'était un fantasme. C'était juste pour les mettre à l'épreuve. Donc l'eau, elle s'est ouverte. Et il y a ceux qui ont attendu que la mer, elle s'ouvre. Et donc effectivement, ils sont arrivés sur la terre ferme. Mais eux, ils n'ont jamais touché l'eau. Ils n'ont pas été mis à l'épreuve. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui ont créé l'événement grâce à leur bitachon. Et il y a ceux qui ont profité de l'événement. Donc, vous allez me dire, c'est pas grave. Les efforts des uns profitent aux autres. C'est bien, non? C'est comme ça dans la vie. Il y a une partie qui bosse et une partie qui lande. C'est comme quand vous tirez une corde, vous tirez un bateau à 10 personnes. Il y en a qui font comme ça, et il y en a qui font, ah, mais ils tirent pas. Et là, tu dis, oh, oh là là, t'as pas des crampes? Je dis non. Et toi? Ah, dis-moi, je vais mourir de crampes. J'ai des courbatures. Et toi? Oh, rien. Et fais voir tes mains. Oh, t'as pas de cloque. Et l'autre, il a du sang. Alors? Ben, il y en a un qui fait semblant de tirer. Il fait semblant de tirer. Ben, alors nous, on dit, eh ben aussi, c'est bien dans le peuple d'Israël. Pourquoi c'est comme ça? Parce que quand Israël arrive, il me s'est basé. Tous les bénis Israël sont responsables les uns des autres. Mais Arev, ça veut dire responsable, mais ça veut dire aussi mélangé. Baruch HaShem, on est tous mélangés. Même si on n'est pas mélangé au niveau des corps, on est séparés. Mais au niveau d'un Neshama, on est mélangé. Vous savez que chacune des Neshamot, elle est reliée aux autres Neshamot. Donc, toutes les Neshamot, elles influent sur les Neshamot. Soit par groupe, soit en globalité. C'est-à-dire que qu'on le veuille ou non, même des gens que vous avez jamais connus de votre vie, par vos mitzvot, vous leur donnez des mérites. Oui. Et par vos verrotes, vous leur éclatez la tête, les pauvres. Ils vous ont rien demandé. Et vous leur éclatez la tête. Si vous allez me dire, c'est quoi ça? Il dit, par exemple, vous savez, c'est pyramidal. Je vous explique comment ça marche. Vous connaissez la vente pyramidale. Vous avez fait ça en business. Hein? Alors, j'explique exactement la même chose pour les mitzvot. Vous prenez en haut le tzadik, le grand tzadik, le tzadik ador. En dessous, il y a le tzadik un peu moins, un peu moins, un peu moins, un peu moins, on descend. Après, il y a le genre talmid chacham un peu moins tzadik, après pas talmid chacham, après moins tzadik, après pas tzadik, après normal, après moyen, après rad et pâquerette, et après en dessous de la pelouse. D'accord? Maintenant, tous ces gens-là, ils sont sous forme pyramidale. Quand celui d'en haut, il tire le 2, le 3, le 4, le 5, tous les étages montent. Quand celui d'en haut, chas v'shalom, il descend, tout le monde suit. Maintenant, chacun, il est à un certain étage et il ne sait pas à quel étage il est et à quel étage il influence sur les autres. Par exemple, il dit l'effet Shachaim. S'il y a un vrai Talmid Chacham qui étudie vraiment la Torah, écoutez bien ce que je vous dis, et il est par exemple, je ne sais pas moi, au Maroc, en train d'étudier la Torah, et à ce moment-là, à Singapour, il y a un juif qui fait du commerce et qui a 14 filles. Et il doit marier la première. Et pour marier la première, il a besoin d'un business à 30 000 dollars. Et devant lui, il a un client à 30 000 dollars. Et il va pour signer le client à 30 000 dollars. Et avec les 30 000 dollars, il va payer ce mariage de sa fille. Et il est chaud, il est tout content. Ouais. Et le client, il a le stylo à la main. Mais sa neshama, lui, elle est liée avec la neshama du Talmid Chacham du Maroc. Et le Talmid Chacham du Maroc, à ce moment-là, il est en train de regarder la Gemara. Et à ce moment-là, il lève la tête, il dit, et pourquoi pas une Volvo? Et il dit, le Nefesh HaChaim, à ce moment-là, le client là-bas de Hong Kong, il dit, j'ai changé d'avis, je ne fais plus le business. Et le contraire aussi. Le contraire aussi. Toi, tu es à Copenhague. Et il y a un type chez toi, il vient et il dit, je voudrais une Sidaka. Et il te parle, il t'explique. Tu dis, bon, allez, je prends 2000 francs, je donne une bonne Sidaka. Tu lui donnes, tiens, 2000 francs. Et à ce moment-là, il y a un juif à Jérusalem. Il est sur les. Il y a de la neige, la route elle est glissante. Il sort du ravin, ouais, et il tombe dans le ravin. Au moment où tu donnes les 2000 francs, la voiture elle fait un écart et elle est arrêtée par un arbre. Alors les secouristes ils viennent, ils disent, ben mon vieux, heureusement qu'il y avait l'arbre, parce que sinon tu lui finissais 60 mètres. Mais lui il sait pas, heureusement qu'il y avait la Tzedaka, parce que sa neshama à lui, elle est reliée à la neshama de cette personne-là. Mais lui il le connaît pas, c'est ni son frère, ni sa soeur, ni sa mère. Mais ils sont liés. Kol Israël, Arevim, Zebazé, Baruch Hashem dans le bien, malheureusement dans le mal. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que Kol Israël, Goufechad. Tout Israël c'est un seul corps. On a du mal à accepter ça, je suis d'accord avec vous, parce que chacun il dit, qu'est-ce que j'ai à faire, moi Ben c'est comme ça. On est tous dans le même bateau. Donc comme on est tous dans le même bateau, quand on a faim, qu'est-ce qu'on fait quand on est dans un bateau? On pêche. Oui ou non? Tu sors ta ligne, tu pêches sur le pont. Mais il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, pourquoi je vais sortir du bateau? Ils vont au fond de la cabine, ils font un trou dans le fond de la cabine. Alors il y a l'eau, elle monte dans le bateau. Alors il y a les gens qui vont lui dire, écoute, tu sais que tu es dans un bateau et que tu es en train de faire couler le bateau. Il te dit, j'ai payé ma place. Tu dégages d'ici. Si tu n'es pas content, tu vas voir la compagnie qui m'a vendu la place. C'est ma cabine, je fais ce que je veux. Donc il y a des juifs qui comprennent qu'on est solidaires les uns des autres, et qu'on ne peut pas se planter les uns des autres, puisqu'on est dans la même galère. Et il y en a qui disent, écoutez, je ne comprends pas. Comme des espèces de baha jusqu'ici, jusqu'en 1940 ou 43. Qui ont cru que leur titre de noblesse et leur grande richesse et tout allaient faire oublier aux Allemands qu'ils étaient juifs. Et ils ont tout à fait compris qu'on arrêtait les juifs qui n'étaient pas français, qui étaient là sans papier, comme de villes clandestins. Et ça les a pas dérangés. Et quand on est venu les chercher, et qu'on leur a dit, il faut monter dans le wagon à bestiaux, ils ont dit, mais enfin, nous ne prenons pas les premières classes. Et que le nazi, il a jeter la vieille de 90 ans, milliardaire, il l'a jetée dedans, il a dit, allez, dégage. Et qu'elle n'a pas compris jusqu'à Auschwitz, elle n'a pas compris ce qui lui est arrivé. Parce qu'elle croyait qu'ils n'étaient pas dans la même galère. On est dans la même galère. On est dans la même galère. Dans le bien, bah, au Hachem. Oui, toi, t'es à Ashkelon, tu manges ta ref. Bah, au Hachem, qu'il y a un type à New York qui est en train d'étudier la Torah pour ta tronche à toi, heureusement. Parce que, bah, au Hachem, on est dans la même galère. C'est-à-dire que quand il y en a d'autres qui rament, le bateau il avance. L'autre il dit, oh moi je rame pas, oh je rame pas. Mais heureusement qu'il y en a qui rament, pour les autres qui rament pas. Exactement pareil. Imaginez quelqu'un, il construit une salle. D'accord? Alors il fait une salle, il dit, bon on va faire le sous-sol. Après il dit, bon comment on va faire le rez-de-chaussée? Ben on va couler une dalle de béton. Il dit, on n'a pas d'argent pour payer les murs. Alors sur quoi on va poser le premier étage? Il dit, c'est pas grave. Tous les gens qui sont en bas, ils vont mettre les bras comme ça et on va poser la dalle de béton. Et on pose une dalle de béton, imagine-toi, de 1000 mètres sur 1000 mètres, 1 mètre d'épaisseur. Ça pèse combien, ça? Ça pèse lourd, non? 1000 mètres sur 1000 mètres, 1 mètre d'épaisseur de béton. Ça pèse lourd. Ouais. Et le constructeur dit, il n'y a pas de problème. Tout le monde met la main comme ça, et ça va aller. Ça va? Il y a 4 ou 5 personnes qui jouent aux cartes. Ils tapent la belote. Et il y a un autre à côté qui est en train de mourir de sueur. Les gens disent, mais t'es brêle ou quoi? Qu'est-ce que tu sacrifies ta vie? Assieds-toi et joue aux cartes. Là, tu dis, mais si on lâche la dalle, on va devenir un jeu de cartes. Le valet, la reine, en double. C'est pas possible. Vous comprenez? Les gens disent, mais qu'est-ce qu'ils ont à se prendre la tête, les religieux, toujours faire les mitzvot, toujours. Mais il faut bien que quelqu'un porte la dalle. L'autre, il dit, allez, on va tous la lâcher. Eh ben, elle va tomber. Donc, toi, tu rigoles, pourquoi est-ce que lui, il se sacrifie? Et lui, il pleure. Pourquoi toi, tu te sacrifies pas? Et si vous allez dire, bon, bon, Hachem, le système, il marche bien. Il y en a qui sacrifient, il y en a qui sacrifient pas. Il y en a qui profitent, il y en a qui abusent. C'est pas grave, c'est la vie. Hein, c'est pas grave. Comme les enfants, ils sont ingrats, les enfants. Et les parents, ils les jettent pas à la poubelle. Vous avez déjà vu quelqu'un qui a dit, qui a téléphoné à la DAS, qui a dit, venez chercher l'espèce de chiot que j'ai à la maison, parce que il est ingrat. Oh, c'est, on est tous des frères, hein, on est tous des frères, hein. On est tous des frères. Donc quand toi tu plantes 30 bars au casino, alors que les juifs ils ont faim, tu dis, oh, putain, c'est pas grave. C'est un enfant capricieux. Hein? C'est pas grave, le fils qui va te prendre le double, Charlot. Oui. Donc, ça veut dire quoi? On pourrait dire, c'est pas grave. C'est marqué dans le passouk. Bien sûr que c'est grave. Parce que ceux qui ont plongé dans la mer les premiers et qui ont fait l'effort et que grâce à eux il est arrivé le miracle, c'est marqué Ve'aya, Ve'amaim, Ayalaem, Choma. L'eau, elle était pour eux une protection. Mais ceux qui ont profité que les autres ils ont plongé et eux ils sont arrivés derrière dans la terre sèche, ils n'ont pas fait d'effort. C'est marqué Ve'amaim, Ayalaem, Choma, sans vav. Et Choma, sans vav, ça fait Chema. Et Chema, c'est en colère. Je vous crois, il est en colère. Qui c'est qui n'est pas en colère? Quand il voit un tricheur qui a les mêmes avantages qu'un travailleur. Et si tu dis, mais c'est une injustice! C'est une injustice! Comment ça se fait qu'il profite celui-là? Vous comprenez ou non? C'est pas normal! Ce qui est marqué ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on remarque toujours que dans tous les groupes, il y a toujours trois sous-groupes. Regardez, n'importe quel système, il y a toujours trois sous-groupes. Il y a toujours un groupe, une partie qui fait avancer le système. Il y a toujours une partie qui fait reculer le système. Et il y a toujours une masse qui suit. Des fois, la masse, elle suit ceux qui font avancer. Et des fois, la masse, elle suit ceux qui font reculer. Mais écoutez bien ce que je vous dis. C'est toujours une minorité qui fait avancer ou reculer. Regarde, par exemple. Un exemple un peu grossier. On est une bande de 10 copains. On dit, tiens, il pleut, mais c'est pas grave, on va se faire une sortie, on va aller faire quelque chose de sympathique, on va aller rigoler. Un type qui a la pêche, il peut réveiller les 10. Et les 10, bah, ils sont là. Bah. Bon, encore, on y va, ouais, allez, ouais, tu crois, ouais. Ah, il dit, ouais, t'as raison, ouais, il pleut, mais c'est pas grave, on met un kawaii, puis on va s'éclater, on va aller faire un foot. On est chaud. Mais un espèce de trou noir comme ça, il vient, il dit, oh non, laissez tomber. Et d'un seul coup, toutes les ambiances, ça fait un trou noir, un absorbeur, une pierre tombale, un absorbeur de joie, vous voyez. La force d'inertie, il t'éteint l'histoire. Oh, laisse tomber, de toute façon, des fois, il pleut au Baléares. Ah ouais, alors laisse tomber, des fois, il pleut. Et si ça marche pas, des gens comme ça, ils te fracassent le moral. Donc on va dire que le groupe, c'est un immense tandem à 10 places. Devant, il y a un type qui pédale comme un fou, il pédale, allez, 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 les gars, pédalez, pédalez. Il y a les 8 autres qui disent, bon, on pédale, on pédale. Et il y a le mec derrière, il freine comme un malade. Le dernier, il freine comme un fou. Il dit, vous allez trop vite, vous allez tous devenir religieux, arrêtez. Je vais vous faire un jdeïs pour vous, un jdeïs sympathique. Les filles, les garçons, la cacheroute, Ashkelon, Elat, identité juive. Je vais vous faire des arbres à tous, on va tous vous faire un arbre. Hein? Tous, chacun un petit arbre. Allez, venez, on y va en groupe. Un arbre. C'est pour te faire pendre, quoi. Oui. C'est pas ça, la Torah. Le judaïsme, c'est pas ça. Donc, il y a des gens qui vont se battre pour essayer de te donner un judaïsme authentique. Et il y a des gens qui vont se battre pour te donner un judaïsme synthétique. Le folklore juif. La cuisine juive. Le yiddish contemporain. Mais n'aie pas honte. Dis le langage dans lequel on s'exprime quand on étudie la Torah en Lituanie. Tu dis, non! Non. Kafka. Kafka. Woody Allen. Pourquoi? La culture, la musique israélienne. Pourquoi tu me fais du judaïsme homéopathique? Fais-moi du vrai judaïsme, n'aie pas peur, n'aie pas honte. Non, parce que si je te donne un judaïsme authentique, ça veut dire fais shabbat, mange kasher, tu dors pas avec n'importe qui, et toujours la même, attention. La roupa, les beaux-parents, les invitations, les obligations, la conscience, la maturité.
C'est trop. Moi, ce que je veux, c'est un judaïsme. Vous voyez, assez cool, comme ça, pas très bien défini. Vous voyez, un truc flou, comme ça, de sympathique, ambiance, ni flore, ni dror, ni cror, ni tror, ni... C'est bizarre. Vas-y, n'aie pas peur. Moi, toujours, les gens me demandent, c'est permis ou c'est interdit ? Il me dit, c'est permis de faire ça, monsieur le rabbin ? Je dis toujours, vous êtes juif ? Vous êtes juif ? Ah, ok. Ben oui, de père et de mère ? Oui. C'est quoi ta question ? T'es juif ou t'es pas juif ? Si t'es goy, y a pas de problème. Tu fais ce que tu veux. Ah non, mais je veux dire, je suis juif, mais vous savez, je voulais. Ah, t'es pas juif alors ? Si, je suis juif, mais je. Ben, c'est comme si un garçon, il vient avec un maillot de bain de fille, il me dit, je peux le mettre ? Je dis, t'es un garçon ? T'es un garçon ? Il me dit, oh ben, je peux le prouver ? Non, non, ça. Ah, t'es pas. Je dis, mais. Non, mais je demande comme ça, c'est. On sait pas, t'as une nouvelle tendance. T'es une fille ou un garçon ? Je te pose une question, t'es une fille ou un garçon ? C'est une fille ! Voilà, il y a un maillot de bain pour fille, t'es un garçon, et un maillot de bain pour garçon. C'est pareil. T'es juif, t'es goy, t'es quoi ? Tu dis, bah, je suis juif, mais faut pas me prendre la tête. Bon, alors t'es goy. Non, alors, c'est shalom. Mais t'es quoi ? J'ai pas compris, moi. Si je suis une IA, peut-être, je sais pas. Ah, t'es ingénieur, t'es ingénieur. Ah, vas-y, fais le pont. Oh, mais je sais pas le faire. Bon, t'es pas ingénieur. Oh, si, je suis ingénieur. Non, c'est pas grave. T'es riche. Eh ben, vas-y, paye cash la voiture. Non, je peux pas la payer. Bon, t'es pas riche. Ben. Dis que t'es pas riche et tout. C'est pas grave, c'est pas grave. T'es pas riche. Non, tu dis non, je revendique. Moi et Christine, nous revendiquons l'identité juive. Christine, dis-leur notre amour pour Israël. Dis-leur. Qui est celle qui était à Eilat l'année dernière? C'est pas vous. C'est nous qui avons été à Eilat. Tiens, d'ailleurs, c'était un avenant du samedi. Tu te rappelles quand on a pris l'avion samedi? Quel scandale. On a pris Air Afghan et il n'y avait pas de repas cachère. J'ai fait un scandale. Air Afghan, c'est un avion. C'est le seul avion qui, où il n'y a pas de train d'atterrissage. Mais. Il s'est marqué Rabotaï. Donc, si dans un groupe comme ça, dans un groupe de copains, c'est comme ça. Dans un groupe de travail, c'est comme ça. Aussi dans une entreprise, il y en a toujours qui font avancer. Il y en a qui font reculer. Et il y en a qui suivent. On dit, où est-ce qu'il faut poser le dossier? Et on t'est payé pourquoi alors? Ouais. C'est pareil dans une communauté. Dans toutes les synagogues, Baruch HaShem, il y a toujours des gens. Il faut avancer la communauté. Et il y a toujours des gens qui se débrouillent pour que la communauté elle avance pas trop. Chas v'shalom. Pas trop non plus. Trop religieux. Trop juif. Pas que ça se voit dans la rue. Comprenez ou non? Et il y a des gens qui suivent. Maintenant, la vraie question, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un, il a le choix de quelle partie du groupe il va faire partie? Il y a des gens qui disent, c'est une fatalité. Par exemple, il y a des gens qui disent, vous savez, moi, je suis dans une famille traditionnaliste et je voudrais pas manquer de respect à mes parents. Heureusement que le converti, il a pas dit ça. D'accord? Sinon, il serait resté breton. Heureusement que l'idiot, il a pas dit ça. Imaginez quelqu'un, un idiot fils d'idiot. Il va dire, ben, par tradition, je reste idiot parce que je voulais pas faire de l'appel à mes parents. Et puis, si je deviens intelligent, ils vont se complexer vu que mon père n'a pas de diplôme. Au contraire. Quand un baha de cordonnier, il a son fils qui est docteur, qu'est-ce qu'il dit? Tu sais que le docteur Benaïch est mon fils? Oui. Mais si un traditionnaliste, il a son fils qui devient Rosh Yeshiva, on lui dit, c'est ton fils le rave? Oh non. C'est un homonyme. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas grave. Ouais, mais tu sais comment ils sont. Je sais pas ce qu'il lui a pris en ce coup. Il a été embrigadé par une secte et tout. Ils lui ont fait un lavage de cerveau et un bourrage de crâne. Une fois, quelqu'un m'a demandé ça. Il m'a dit, tous les mardis soirs, vous leur faites un lavage de cerveau. Je dis, moi, s'ils viennent avec la tête propre, je leur laverai, moi. Après, il m'a dit, vous leur bourrez de crâne. Eh ben, qu'elle vienne avec la tête pleine. Moi, j'attends que ça, moi. J'attends un mardi, je vais m'asseoir là, il y en a un de vous, il va faire le cours. J'attends que ça, moi. Moi, j'ai pas la priorité, j'ai pas le privilège. J'attends. Venez faire le courrier alors. Donc c'est vrai qu'on fait du bourrage de crâne parce que les gens nous donnent 2 heures pour leur remplir la tête d'une semaine. C'est ce que je fasse moi. S'ils viennent toute la journée, on leur remplit une semaine. Ils donnent 2 heures, on leur donne 2 heures. Tant qu'on est obligé de bourrer. Incroyable. Hein, ce qui est marqué ici. Ça veut dire quoi? Chacun il peut choisir son groupe. Est-ce qu'il peut faire partie des adultes ou est-ce qu'il peut faire partie des enfants? Maintenant les enfants, dans les adultes, il y a 2 groupes. Il y a les adultes, des adultes conscients. Qu'il faut avancer les choses, et il y a les adultes pervers qui font reculer les choses. Et dans les enfants, qui est ceux qui suivent? C'est ça les enfants. Les enfants, ils sont où? Ils sont là où on les met. Donc chacun, il a le choix de se demander, est-ce qu'il va faire partie d'un judaïsme qui est dynamique et évolutif, ou il va faire partie d'un judaïsme que tranquille, hein, pour pas trop nous déranger, et si c'était pas les islamistes, franchement, on se poserait pas de questions. Hein, on est bien. C'est ce qui est marqué ici. Ça veut dire que, de toute façon, dans la vie, quelqu'un, il sera obligé de faire un choix. Et si quelqu'un, il va croire que c'est seulement un choix religieux, il dit le Rav Dessler, « Kol Adam ou Dayan Bahaim Shelo Bechol Yom » Chaque homme est juge tous les jours de sa vie, toute sa vie. Ça veut dire quoi? Tous les jours, tu as des décisions à prendre. Moi, je ne parle pas des grandes décisions, ça c'est évident. Tu te maries avec celle-là ou avec celle-là. Tu fais des études longues, des études courtes. Tu travailles à tel endroit ou à tel endroit. Ça, c'est les grosses décisions. Mais toutes les petites décisions de tous les jours. Il m'énerve, je me mets en colère, je ne me mets pas en colère. Bah, j'ai une heure de libre là. Je regarde un film ou j'étudie la Torah. C'est une petite décision. Toute la journée, tu es obligé de prendre des décisions. Donc toute la journée, tu es un Dayan. Maintenant, comment on appelle un tranché, la halakha? On dit un psak. Pourquoi on dit tranché? Vous savez pourquoi? Parce que il faut être capable de couper d'un côté ou de l'autre. Les adultes, ils tranchent. Les enfants, ils cherchent à conserver les deux côtés. Vous ne pouvez pas avoir un petit... Ils veulent toujours l'utile et l'agréable. Ce qu'on appelle le judaïsme Disneyland. Vous comprenez? Un petit peu ce qu'il a essayé de faire Jésus. Les avantages sans les inconvénients. Et vous les uns les autres et mangez n'importe quoi. Toutes les contraintes, on les enlève. Il vous reste que du kiff. Ça, c'est pas mal vendu. Il a vendu pas mal de CD pendant des années. Après, ça s'est un peu relâché. Alors ils ont créé l'humanisme, c'est pareil, l'humanisme, nouvelle religion juive d'origine qui est devenue un peu bretonne ensuite. Ils ont dit c'est pareil, on va prendre la Torah et on enlève la Torah. Qu'est-ce qui reste de judaïsme? C'est quoi le judaïsme? Ouverture, pluralité, amitié, tolérance, intolérable. Quand vous avez un câble qui tient un ascenseur, quel est son degré de tolérance? Qu'est-ce que vous dites, vous? Je veux qu'il soit intolérant, le câble. Alors j'ai dit, je vais vous mettre un fil de coton qui est très tolérant et qui va éclater. J'ai dit, non, je veux qu'il soit intolérant. Je veux que ce soit un câble. C'est pareil. Tu crois que le judaïsme, il a tenu avec du coton? Il a tenu avec des câbles en acier. La prière, la Torah et la bonté. Les câbles en acier. Ils ont dit, enlève la Torah et la prière. Il reste la bonté, ça va suffire. Un câble en coton, il va éclater. Avec la gentillesse. Ce qui est marqué ici. Akadosh Baruch Hu, il a dit que chaque homme, devant, dans sa vie, il est juge. Donc il n'y a pas seulement le juge du tribunal. Il y a chacun le juge de sa vie. Maintenant, il a fait une bêtise. Il va demander pardon à sa femme ou non? Maintenant, elle a dit un mot de travers. Elle va s'excuser. Maintenant, il a frappé son fils, il s'est gouré, c'était l'autre qui avait fait la bêtise. Il va arranger les choses ou il va faire l'amour propre, il va dire, c'est pas grave, tant pis pour lui, de toute façon, il méritait, de toute façon. Chaque fois, tu dois trancher, tu dois trancher, tu dois trancher, tu dois trancher. À chaque fois. Comment tu vas trancher? Alors, c'est marqué dans la Gemara, Talmid Chacham Nikra Igia le Parashat Drachim. Celui qui est sage, on l'appelle, il est arrivé à la croisée des chemins. C'est quoi la croisée des chemins? Vous voyez, il y a des gens, ils sont sur un chemin. Ils ont un chemin, c'est le chemin qu'ils ont. Il y a des gens, ils sont à la croisée des chemins. C'est-à-dire, ils ont plusieurs chemins. Ils peuvent prendre ça, ils peuvent prendre ça, ils peuvent prendre ça. Le Talmid Chacham, c'est celui qui est à la croisée des chemins et qui sait quel chemin prendre. Celui qui n'est pas à la croisée des chemins, il est sur un chemin, il n'imaginait même pas qu'il y avait un autre chemin. Comme des fois, les gens te disent, écoutez, moi, j'ai fait comme ça, moi, ça s'est présenté, j'ai suivi, j'étais pris par les événements, j'ai suivi le truc et bon, je me suis retrouvé. Alors l'autre, il vient, il dit, hey, regarde, il y avait une autre manière de regarder. Il dit, ah ben oui, parce que, tu vois, là, tu regardes tes intérêts. Mais si tu regardes l'intérêt de l'autre avec qui t'es associé depuis 10 ans, il a quand même mis la moitié de l'argent. Tu dis, bon, c'est vrai, j'avais pas regardé de ce point de vue. Talmid Chacham, lui, il voit tous les points de vue. L'autre, il voit un point de vue. Son point de vue. son intérêt. Et quelqu'un, il ne peut pas avoir le choix s'il ne peut pas voir plus d'un seul point de vue. Alors quelqu'un, il s'enferme dans ses intérêts. Il s'enferme dans sa façon de réfléchir. Et après, il s'étonne qu'il n'a pas le choix. Et le pire, moins il se donne le choix, plus il s'enferme dans son choix. Il te le dit. Mais laisse-moi vivre. Ça m'étouffe. J'étouffe dans cette vie. Mais c'est normal. Toi, sous prétexte de faire ce que tu voulais, tu t'es pas donné plusieurs choix. Et maintenant que tu t'es enfermé dans les limites que tu t'es créé toi-même, maintenant tu te révoltes parce que tu as l'impression d'étouffer. Mais pourquoi les gens, au moment où on leur donne le choix, ils veulent pas en tenir compte, et au moment où ils ont plus le choix, ils se révoltent parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est bizarre. Quand il fallait réfléchir, ils sont engagés. Et quand il faut s'engager, ils commencent à réfléchir. Eh oh, l'hôtel perd 5 kilos. Elle a une semaine de la croupa. Elle me dit, ah, monsieur Rabin, je crois que je l'aime pas. Je dis, mais ça fait combien de temps que vous le connaissez? Ah ben ça fait 4 ans. 4 ans. Ben oui, mais je n'avais jamais vu sous cet angle-là. Il m'est apparu un nouveau visage. Il a une façon de se conduire. Et puis, il m'a manqué de respect. Ah bon, qu'est-ce qu'il a fait? Ben je l'ai appelé 118 fois. Il m'a appelé une fois. Je lui ai éclaté son standard et il m'a dit, je te rappelle. Alors que sa mère était en train de mourir, soi-disant. Moi, je lui dis, peut-être que vous avez peur du mariage. Ah, vous croyez que c'est... Peut-être ça vous fait peur. Peut-être vous vous dites toujours, bon, je suis avec lui, parce que bon, c'est un mec sérieux, je le tiens au chaud, mais on ne sait jamais si Tom Cruise, il vient. Peut-être vous avez peur de fermer la porte, après vous dire, juste ah, l'autre, il arrive à ce moment-là, ah. C'est comme ça, tu sais, quand tu vends tes actions, tape le double. Ah, ma Dieu. Tu les as gardés 4 ans, Hacham, il attend que tu les vends. Et dès que tu les vends, il te fait hack, hack. Et ton copain, tous les jours, il vient et tu dis, elle a encore pris 50%. Ferme-la. Oh là là, heureusement que je les ai gardés. Hein. C'est comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu te met dans une situation où toi, tu dois prendre et tu dois avoir le choix. Tu dois donner les moyens d'avoir le choix. Ça, c'est le Talmid Chacham. Le Hamares, le contraire. Le Hamares, lui, qu'est-ce qu'il a fait? L'ignorant, il s'est mis entre les mains du Yetzera. Donc, plus il se met entre les mains du Yetzera, moins il a de choix. Parce que d'abord, il s'enferme dans l'arbitraire. Il dit, ouais, je suis comme ça, c'est tout, j'ai pas envie de réfléchir, laisse-moi tranquille. Il s'enferme dans l'arbitraire. Après, il s'enferme dans ses vices. Il peut plus, il est devenu vicieux. Après, il s'enferme dans ses habitudes. Il dit, j'ai pris l'habitude, maintenant, je suis l'habitude d'être vicieux et arbitraire. Ouais, je peux plus. Après, il s'étouffe, il dit, j'en peux plus. Mais mon frère, qui t'a obligé à devenir vicieux? Qui t'a obligé à devenir un ignorant? Ouais. Comme les gens qui sortent du tribunal, disent, je me suis fait avoir, de toute façon, c'est toujours pareil. Les petits, ils se font écraser. Mais Charlot, qui t'a empêché d'acheter un livre de loi, de te renseigner, d'aller voir ton assistance juridique, ou simplement de lire le contrat avant de le signer? Personne. Alors maintenant, tu t'énerves parce que tu t'es fait rouler. Mais tu t'es pas fait rouler. Tu t'es pas fait rouler, Chasvei Shalom. Tu t'es roulé. Parce que t'as pas lu le contrat. Le Talmid Chacham, c'est quoi? Le sage, c'est celui qui lit le contrat. Et c'est pas interdit, au contraire, c'est une mitzvah. Et l'ignorant, c'est celui qui dit, j'ai pas envie de lire le contrat, laisse-moi tranquille, il a pris de tête, c'est permis, c'est interdit. Ça, c'est trop de détails, trop de lourdeur. Ouais. Et après, 20 ans après, il vient avec des problèmes tabous comme ça. Et tu lui dis, en fin de compte, ton problème, c'était un détail. Il dit, t'as raison. Tu fais tous les calculs. Ça a dégénéré, il y a eu des cris, il y a eu de la violence, il y a eu de la déchirure, il y a eu des déceptions, il y a eu des horreurs, il y a eu de la haine, il y a eu de la rancune. Mais le fond, c'était quoi, au départ? C'était un problème d'amour propre. Pour de l'amour propre, t'as détruit ta femme, t'as détruit tes enfants, t'as détruit ton boulot, tout, avec l'amour propre. C'est un détail. Le Talmid Chacham, lui, il a un scanner. L'amour propre, la première chose d'abord, tu règles ton problème d'amour propre. Premièrement, je vais même pas commencer. Le reste, c'est des bêtises. Commence par l'amour propre. Parce que les gens, ils font le contraire. Ouais, les gens, ils me regardent, je sais pas ce qu'ils ont, puis pourquoi je me sens obligé, et puis est-ce que moi, je dois leur prouver, ou le contraire, je dois tous les emmener avec moi, puis je vais leur convaincre, je vais leur montrer que j'ai une belle image. Arrête. Arrête de traduire en relationnel tes problèmes personnels. Arrête de généraliser tes complexes. Arrête d'appeler doctrine un malaise que tu transportes depuis ton jeune âge. Règle tes problèmes. Occupe-toi de toi. Au lieu de sauver le monde, tu ferais mieux de te sauver toi déjà. Parce que la Torah, elle dit que l'axe, c'est la personne. Alors que l'homme, il voudrait que l'axe, ça soit le regard de l'autre. Alors il essaye de tourner autour de l'autre. Il dit, comment tu me trouves aujourd'hui? C'est toi l'axe. Si t'as pas honte de te regarder dans une glace, t'auras pas honte quand les gens vont te regarder. Mais si t'oses pas te regarder dans une glace, toute ta vie t'auras honte. Parce que tu dis, je sais pas comment on va me regarder demain. Ça parasha drachim. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui n'a pas la connaissance, celui qui ne s'est pas libéré de sa petitesse, de sa mesquinerie, il ne peut pas parler de choix, il n'a pas le choix. Et plus il s'enfonce dans la avéra, dans la faute, et plus il s'enfonce dans l'impureté, et moins il a le choix. Lui, il croit qu'il est de plus en plus libre, il est encore de moins en moins libre. Pourquoi? Regardez ce qui est marqué. C'est marqué dans la Gemara, dans Yoma. Il y avait un Kohen Gadol Zdouki. C'est quoi les Zdouki? C'était une partie du judaïsme qui n'acceptait pas la Torah orale, qui n'acceptait que la Torah écrite. Un jour, il y a un Kohen Gadol, un juif qui a réussi à arriver à être Kohen Gadol, parce que dans le deuxième temple, à un moment, on pouvait acheter le titre, ouais, parce qu'il y a une grande, je sais pas comment dire, une grande dérive, ouais. Et quelqu'un, il avait acheté le titre, et il est devenu Kohen Gadol, et il était Zdouki. Et les Zdouki, ils ont appris une halakha, d'après eux, que la Ketoret, c'est-à-dire l'encens, on le fait à l'extérieur du Kodesh, alors que nous, on apprend de la Torah orale que les encens, on le fait à l'intérieur. Maintenant, celui qui fait les encens en dehors, il doit mourir. Il doit mourir. Ce Kohen Gadol, tout ce qu'il a vécu toute sa vie, tout ce qu'il a étudié, tout ce qu'il a réfléchi, tout ce qu'il a cherché, tout ce qui s'est élevé, c'est seulement pour arriver un jour à faire la Ketoret en dehors, comme lui, il a appris. Regardez ce qui est marqué. Kol Yamai Haiti Mitztaer. Toute ma vie, j'ai souffert pour arriver à accomplir cette halakha. Quelle halakha? De faire la Ketoret dehors, d'après la Torah écrite. Mais d'après la Torah orale, il faut la faire dedans. Il a fait la Ketoret dehors et il est mort. Il est mort. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui est incroyable? C'est que la Gemara, elle raconte. C'est marqué. Vous savez, on dit tous les jours, Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Écoute Israël, tu es l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toutes tes forces, de tous tes moyens. C'est quoi? Il a dit Rabbi Akiba, même si Akadosh Baruch Hu t'enlève la vie, tu dois aimer Akadosh Baruch Hu. Tu dois être lié à Akadosh Baruch Hu, tu dois être proche d'Akadosh Baruch Hu. Même si tu souffres dans ton corps, même si tu es malade, c'est pas quand tu es malade tu dis oui il est Dieu, et quand tu es en bonne santé tu dis Dieu est grand. Non, que tu es malade ou en bonne santé, tu aimes Akadosh Baruch Hu. Qui c'est qui a dit que même si Akadosh Baruch Hu t'enlève la vie, tu dois dire, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, c'est qui? Rabbi Akiba. Comment il est mort, Rabbi Akiba? Les Romains, ils avaient interdit d'étudier la Torah. Et lui, il a continué à enseigner la Torah. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Romains? Ils lui ont enlevé la chair avec des tenailles brûlantes. Il a enlevé la peau, vivant. Il était à côté de ses élèves. Ils lui ont dit, et il allait mourir. Il a dit, c'est l'heure de faire le schéma. Et il a fait le schéma. Il a dit, et il était content, il était heureux. Il lui a dit, Rav, comment vous pouvez être heureux? On est en train de vous enlever la peau. C'est ce qu'il a répondu. Il a dit, Kol Yamai Haiti Mitztaer. Il a dit, toute ma vie, j'ai souffert. Je disais, quand est-ce que je vais accomplir ce pasouk? Et maintenant, je peux l'accomplir. Je vais pas être content. Vous comprenez? Quelqu'un, il a étudié la Torah dans la souffrance. Quelqu'un, il a étudié la Torah dans le bonheur. Est-ce que quelqu'un, il va dire, oh, moi, j'ai fait une option, j'ai pas fait l'autre. Nous, on dit, que Hachem, il nous laisse tranquille, hein? Nous, on est pour le côté Dieu sympathique, pas le côté Dieu dur. On est, hein? On veut bien faire de la compétition, mais pas de la haute compétition, de la compétition. Bien sûr. Ça, c'est les épreuves que nous, on crée. Mais les épreuves qu'Hachem nous envoie, on a besoin, comment on va évoluer? L'Olaï des Nisayon, c'est les Nisayonot que moi je crée. C'est comme ça qu'ils écrivent les commentateurs. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, nous, on pose une question. Comment ça se fait? Il y a de la place ici, il y a de la place. Comment ça se fait que le Kohen Gadol Kesduki, ouais, il a dit toute ma vie j'ai souffert pour arriver à accomplir, de mettre la Ketoret en dehors, ouais, il est mort. Et Rabbi Akiba, lui, il a dit toute ma vie j'ai souffert, pourquoi? Pour accomplir ce pasouk. Ve'afta bechol levavecha. Ah, Bataï, vous savez ce que ça veut dire ça?
Ça veut dire que quelqu'un, il peut donner toute sa vie, mettre toutes ses forces, et il s'est planté. Je ne sais pas si vous comprenez. Comme moi, des fois, j'ai de la peine. Je vois des gens, ils s'investissent, ils mettent des forces, ils passent des nuits et des jours pour rien. Halom tov, halom shalom. Et ils viennent chez toi, vous savez, Baruch Hashem, je me suis occupé un petit peu de la communauté là-bas dans ma ville de province et j'ai réuni les jeunes et c'est moi qui ai organisé les amitiés judéo-chrétiennes et on a fait des voyages en Corrèze, on a fait des voyages épiscopales et Baruch Hashem, il y a eu une majorité de mariages mixtes. Parce que c'est une grande ouverture d'esprit. Je dis alors, il m'a dit, ben finalement, on a vendu la synagogue aux protestants, parce qu'il n'y avait personne dedans. Je dis alors, vous êtes content de ce que vous avez fait? Il me dit, j'ai œuvré pour la communauté. Je dis oui, vous avez fait mieux que les nazis, bravo. Tu vois des gens des fois, ils se défoncent la santé. Pourquoi? Pourquoi? Pour ce qu'ils considèrent être bien. Mais au lieu de regarder au temps réel, en temps réel, tu dis, mais regardez les juifs, ils sont tous là. Oui. Regarde à long terme. Qu'est-ce que ça t'apporte? Vous comprenez? Qu'est-ce que tu apportes? L'autre, il dit, on va faire une sortie pour Pourim, on emmène les enfants au cinéma. Oui. Ils sortent du cinéma tous perturbés. Tu dis, c'est bien, ça t'a passé une bonne après-midi. Eh, c'est ce qu'ils voulaient, les enfants. Alors, comme les enfants, ils voulaient ça, on a fait ce qu'ils voulaient. Donc, les enfants, ils sont plus matures que les organisateurs, parce que les organisateurs, ils suivent les avis des enfants. Je sais pas si vous... Donc si les enfants ils avaient dit « Oh ouais, nous on n'a pas le droit de prendre de l'extasie et tout », alors les organisateurs ils disent « Bon alors, mais une fois hein » Mais c'est les adultes qui doivent dire aux enfants qu'est-ce qu'ils doivent faire, c'est pas les enfants. Ils disent « L'enfant est roi !» Mais l'enfant il est roi, mais il est bête aussi. L'enfant il n'a pas de conscience, c'est les parents qui ont une conscience. Oui. Enfin les parents ils disent « Oh écoutez, j'arrive plus à mes enfants. » Je dis « Vous savez pourquoi vous n'arrivez plus avec vos enfants ?» Parce que vos enfants ils vous ont poussé, jusqu'à ce qu'eux ils sont devenus les parents et vous êtes devenus les enfants. Ils rentrent à la maison, ils font la loi. Ils te mettent les nerfs comme ça. Maman, j'en peux plus, fais ce que tu veux. Après, il dit, toi le petit, tu fais le ménage. Toi, tu rentres là-bas, toi, tu cires les pompes. Toi, papa, tu t'écrases, tu vas dormir. Moi, j'ai vu des cas comme ça. Les parents, ils ont pris. Ils sont écrasés, maintenant, les enfants, ils sont là. C'est normal. C'est ce que c'est l'enfant. C'est comme la mère, elle tape sur la digue. S'il y a une digue, elle s'arrête à la digue. S'il n'y a pas de digue, elle continue. Mais la mère, elle peut bouffer la falaise. Elle mange la côte et elle avance. Et toi, tu dis, bah écoutez, moi, j'arrive plus. Je dis franchement, j'arrive plus. Hachem, il a partagé les rôles. Il y a le rôle du père, il y a le rôle de la mère, il y a le rôle de la structure, il y a le rôle du fluide, il y a le rôle de la tendresse, il y a le rôle de l'autorité. Ça marche très bien. Maintenant, si l'autorité, elle rate à 9h30, et si le fluide, la tendresse de la mère, elle a plus de force parce qu'elle joue le père, elle n'arrive plus, et alors elle craque, elle baisse les bras, et le père, il élève, et le gosse. Allez dormir, c'est pas pour vous ce qu'il y a à la télé. Je vous dis, j'ai vu des trucs comme ça. Des fois, il a fallu que moi j'aille tirer l'oreille du gosse. Je dis, mais tu vas écraser ta grosse. Et au contraire, l'autorité, ça rassure l'enfant. Ça lui fait du bien. Parce que l'enfant, il a peur. Donc il pousse pour que les parents, ils le rassurent. Et l'autre, au lieu de rassurer, il craque. Alors l'enfant, il dépasse la digue et il défonce la falaise. Exactement pareil ici. Les Bnei Israël, ils ont besoin qu'on les cadre. Ils ont besoin. Donc si tu leur dis, sous prétexte de les garder, tu leur dis, vous savez les gars, on va pas vous faire un judaïsme trop contraignant. On va faire un judaïsme virtuel, transparent, sympathique, très ouvert, tellement ouvert que tu n'arrives même plus à faire la différence avec le catéchisme. Alors évidemment, l'autre, il dit, eh ben, pourquoi pas de l'autre côté? Pourquoi pas? Eh ben, il y va de l'autre côté. Après, le papa, il vient te voir, il te dit, comment ça se fait que ma fille, elle m'a amené Christian? Je dis, mais elle a jamais vu la différence. Et toi-même, tu lui as dit, je suis l'homme qui a une différence. Donc, et au contraire, tu dis, ils sont mieux. Après, tu dis, qu'est-ce que vous pouvez faire pour séparer ma fille? C'est pas une ségoula ou une socola? Vous voulez une tablette de socola? Je connais pas. Maintenant, j'ai pas dit qu'il faut dire que les goyim ils sont bas. Non, chas v'shalom. Il faut dire aux enfants que la Torah elle est grande. Et après eux, ils feront la différence tout ça. Mais si tu en es tous pareils, tu crois que le Yetzer il va pousser l'enfant vers le tous pareil juif ou le tous pareil
Pathos, qu'avec la Pathos, il fait ce qu'il veut avec la Juve. Il dit, oh non, non, c'est fini. C'est terminé. C'est fini en 5 minutes. C'est marqué ici. Pourquoi c'est marqué? Pourquoi c'est comme ça? C'est marqué dans la Gemara. Zaken. Zaken, ça veut dire quoi, Zaken? Ça veut dire âgé, normalement. Mais Zaken, elle dit la Gemara, Zé, Shekana, Chorma. C'est celui qui a acquis la sagesse. Maintenant, la Gemara, elle demande, pourquoi est-ce qu'on appelle Zaken alors qu'il est jeune? Il peut être jeune. C'est quoi l'expérience? C'est quoi la vie? Quelqu'un, il a beaucoup étudié la Torah. C'est comme s'il a vécu des milliers d'expériences. Je vous donne un exemple. Toi, t'as eu un cas, un problème avec un voisin une fois. Sur un problème précis de voisinage que il a laissé pousser son arbre et son arbre, il est rentré chez toi et les racines, elles ont défoncé ton mur et ton mur, il est tombé. Maintenant, tu t'es tellement guirlandé avec lui, t'as tellement réfléchi, t'as tellement regardé le dossier que maintenant t'es devenu un spécialiste des arbres qui déplacent les clôtures. Voilà. Donc, t'as une expérience là-dedans. On dit qu'un client qui analyse bien son dossier, il est plus fort que son avocat dans ce dossier. Parce que l'avocat, il est obligé d'avoir un peu de connaissance, un petit peu dans chaque élément. Mais dès que tu lui as posé ton cas, il fouille dans les bouquins. Tu crois qu'il connaît tout? Il connaît pas. Par contre, toi, dans ton dossier à toi, tu connais tout. Parce que c'est un point dans tout le code civil. Ça va? Maintenant, quand tu étudies Baba Kama, c'est comme si tu as fait 3 ans de droit. Donc, tu as un max d'expérience sur le droit. Le droit civique. Après, tu vas faire Ketuvot. Tu vas faire le droit qui concerne les obligations des hommes et des femmes. Tu vas faire Gittin, tu vas faire Kiddushin, tu vas faire Baba Mitzia, tu fais toutes les lois des employés. Tu vas faire... Tu es devenu un... Comment ça s'appelle en français? Un conseiller juridique. Tu es devenu conseiller juridique. Vous comprenez ou non? Donc, mais comme toi, tu as étudié de toutes tes forces, on parle de quelqu'un de sérieux. Et comment on dit, comment est-ce que quelqu'un étudie toutes ses forces? Quand ça devient sa vie. Donc comme ça devient sa vie, donc automatiquement, chaque cas, c'est comme s'il le vivait. Une fois, j'avais un copain à moi, et une mémoire abominable. Il écoutait un cours très compliqué, il se rappelait tout. Je dis, comment t'arrives à te rappeler tout? C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, moi, chaque cas, je le vis comme si c'était mon problème. Et ton problème à toi, tu t'en rappelles? Mais non, je ne veux pas vous mentir, il y a des millions de cas. Dans la Gemara. Mais c'est pas grave. Chaque cas, tu peux le vivre intensément. Donc celui qui étudie les Shem Shamaim, que chaque cas il le vit intensément et que chaque cas il l'absorbe comme si c'était son problème. Donc c'est comme s'il avait eu des millions d'expériences de vie. Donc même à 25 ans, il les acquête. Maintenant, le même type qui aurait fait les mêmes expériences dans la rue, il est devenu fou déjà. Il est devenu fou. Parce que le problème, c'est que on peut devenir intelligent avec l'expérience de la vie. Et on peut devenir intelligent avec la théorie. La seule différence, c'est que la pratique, elle coûte. Comprenez? Tu vois ce type-là, par exemple, tu dis, écoutez, j'en suis à mon 6e mariage, 5e divorce, 2 veuvages, dont le premier un peu aidé, 4 enfants légitimes, 19 illégitimes. On voit qu'il a une certaine expérience. Mais d'un autre côté, on se dit, comment il est encore vivant, ce type-là? Tellement il a été perturbé. Peut-être même que vous allez dire, je ne sais pas s'il est vraiment vivant. Franchement, quand je le vois comme ça, avec son intraveineuse de Prozac, vraiment, je ne sais pas s'il est vraiment vivant. Ça veut dire quoi? Intelligence et adaptée. On peut s'adapter si on a une vie dure. Mais combien elle t'a coûté ton expérience? Combien? Cher. Qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Chaque juif, il a besoin d'une grande expérience. Parce que la vie, elle est très riche. Elle a un énorme potentiel de remise en cause. Maintenant, l'expérience, au lieu de la faire dans la rue, tu vas la faire à la yeshiva. Si tu vas me dire, oui, mais la théorie, c'est pas comme la pratique. C'est vrai. Mais si tu vis la théorie de toutes tes forces, la théorie, elle va avoir exactement la même empreinte que la pratique. Sans les cicatrices. Et de toute façon, tu pourras jamais vivre dans une vie tous les cas de la Gemara. Par contre, ça peut te donner une chorma, ça peut te donner un recul, ça peut te donner une puissance de réflexion qui va beaucoup t'aider dans ta pratique. À n'importe quel âge, à n'importe quel niveau. C'est quoi ça? C'est ça Talmid Chacham. C'est ça, on dit qu'il est à Parashat Drachim, il est à la croisée des chemins. Pourquoi? Parce qu'il peut choisir. Et ça, ça m'a toujours fait rigoler. Les gens te disent, oui, mais vous, le religieux, vous êtes pas libre, vous êtes enfermé, vous êtes obtus. Mais non, celui qui s'est préservé, malheureusement, il peut encore faire le mal et il peut encore faire le bien. Mais celui qui s'est pas préservé, celui qui s'est pourri la vie, celui qui a pris des mauvaises habitudes, il n'est pas libre de faire le bien. Il peut pas. C'est comme si quelqu'un, il va pas à l'école depuis 20 ans, il dit, ben, c'est pas grave, si je veux, je rentre à l'ENA. Dibli Neder. Déjà, toi, t'as arrêté la fac depuis 4 ans. En train, quand on te dit le mot logarithme, t'as envie de vomir. Tu fais comme ça. Arrête. Alors, si je te dis, demain, tu rentres en maths sup. Demain. Je peux plus. J'ai plus la force. J'étais jeune, j'ai fait plaisir à mes parents, je me suis battu. Mais maintenant que ça fait 8 ans que je m'occupe de cette boîte de téléphone, là, je suis épicier, je veux dire. Ouais, tu veux que moi, je vais m'asseoir, je vais commencer à réfléchir. Alors, l'équation du quatrième degré, comment elle remet en cause le principe de Pythagore quand on le compare à la relativité? Oh là là, moi, je veux du cash, moi, le téléphone, le fric, la thune, ça c'est. Voilà. Je vide les rayons, je remplis les rayons, et entre-temps, je. Ça, c'est du sérieux. Tu me prends la tête maintenant. Alors, le quatrième degré, l'équation, là. Oh, m'intéresse pas. Oui? Mais celui qui étudie la Torah tous les jours, il a 68 ans, tu lui dis, tu veux qu'on réfléchisse ensemble? Bah ouais, ça le dérange pas parce qu'il a pas arrêté. C'est-à-dire que le cerveau, c'est une machine extraordinaire quand tu continues à t'en servir. Mais le cerveau, quand tu t'arrêtes de t'en servir, ça devient ouah, poids lourd. D'ailleurs, les gens, ils te disent, oh vraiment, on se prend la tête pour rien. On va pas encore réfléchir. On va pas encore rediscuter. Bon, où c'est permis, où c'est interdit, quoi. Tu sens qu'ils ont une espèce de monobloc à l'intérieur, un trou qui a fondu sous la pression, je sais pas, une mayonnaise mal tournée, je sais pas. Non mais c'est il vient te poser une question, tu commences à répondre, attends, t'as pas compris, moi j'ai pas de problème, c'est toi qui as un problème. Mais non, moi j'ai une réponse. Mais non, même la réponse tu veux pas l'entendre, mais t'es malade, c'est toi qui as un problème. Tu dis ouais, ma femme, tu dis bah attends, il y a ta part aussi, c'est 50-50. Oh non, pourquoi? Je dis, on va trouver un mec qui va dire que c'est toute la faute de ta femme, mais c'est toi qui viens chez moi. Moi, je pense que quand on est marié, on est deux. Et quand on est deux, on est au moins deux. Maintenant, si la présence de ta femme t'importune, peut-être que t'es même pas marié encore. Hein? Peut-être que t'es pas marié. Parce que dès que je te parle, tu vas pas commencer à prendre sa défense. Je t'ai pas dit sa défense, mais au moins 50-50. Tu veux même pas savoir. C'est-à-dire quoi? Il s'est enfermé dans son orgueil, il s'est enfermé dans son amour propre, il s'est enfermé dans sa mesquinerie, dans sa petitesse, donc il n'a pas le libre arbitre d'envisager le contraire. Donc il est foutu. Et le contraire. C'est ça, Talmid Chacham. Si c'est comme ça, Rabotai, quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Si quelqu'un, il veut avoir toujours le choix dans sa vie, il a besoin de deux choses. Il y a deux choses qui empêchent d'avoir le choix. Premièrement, le manque de clarté, ce qu'on appelle en français la clairvoyance, on va voir ce que ça veut dire. Et deuxièmement, c'est l'éternelle recherche du compromis. Les gens, ils sont condamnés dans une perpétuelle recherche du compromis. Est-ce que, monsieur le rabbin, on ne pourrait pas trouver un niveau intermédiaire? Est-ce qu'on ne pourrait pas arranger tout? Est-ce qu'on ne pourrait pas lier l'utile et l'agréable? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un jambon cachère? Vous êtes sûr qu'on ne peut pas ouvrir Shabbat? Vous êtes sûr? Il n'y a pas un cas d'exception? Vous êtes sûr que mon fils est mamzer? Oui. Vous êtes sûr? Oui. Attendez, je vous dis que je suis riche. Et vous êtes sûr que mon fils est mamzer? Oui. Oh. Vous êtes dur, vous, hein? Même l'inspecteur des impôts, il m'a dit que ma compta, elle était clean. Pourtant, j'en ai pas. Mais vous, il n'y a rien qui bouge. Qu'est-ce que je te dis? Ce qui est marqué ici. C'est marqué dans la Torah dans Kiddushin, sur le Pasuk Veshinan Tam Levanecha, tu enseigneras à tes enfants. Shinun, c'est un langage d'enseignement. C'est aussi un langage de finesse. Donc Veshinan Tam, la Torah, elle dit, c'est quoi Veshinan Tam? Sheyu divrei Torah mechudadin beficha. Que les paroles de la Torah, elles soient claires, elles soient nettes chez toi. Souvent, les gens, ils s'énervent. Parce que on est affirmatif. Moi, à l'époque, je disais, il y a 20 ans, je disais, le juif, c'est le peuple de l'affirmation. Et ça énerve les gens. Parce que la cote chez les intellectuels, c'est de ne pas savoir.
c'est de développer les solutions plurielles. Ils appellent ça la vérité plurielle. On tend vers l'objectivité en développant des milliards de probabilités. Alors que la Torah, elle te dit, c'est comme ça. Alors ça les énerve. C'est un autre problème, parce qu'ils aiment le flou. Parce que dans le flou, on fait ce qu'on veut. Alors que dans la clarté, les limites sont posées. C'est pas ta femme, c'est pas ta femme. Tu dis, oui, mais si on est très amoureux, c'est pas ta femme. Mais l'amour dépasse les limites de la légalité, Allah, du légitime, Allah. Rien. C'est pas ta femme. T'es sûr? Ouais. Poétiquement, philosophiquement, mais halakhiquement, il n'y a pas. Tu la veux? Inquiète. Alors pourquoi ils ont besoin de la vérité plurielle? Parce qu'ils pensent aussi que l'amour, il est pluriel. Que la bouffe, il est pluriel. Que l'argent, il est pluriel. Tout est pluriel. L'argent, il n'est pas pluriel. C'est ton argent, c'est fini. C'est ton ami, c'est fini. Il n'y a pas d'embrouille. C'est quoi Vishnu Antam Levanecha? Regardez ce qu'il dit, ce qu'elle dit la Gemara. Sheyu divrei Torah mechudadim beficha. Les paroles de la Torah, elles doivent être aiguisées dans ta bouche. C'est comme ça. C'est ce qu'on appelle trancher la loi. Ouais. Regardez bien. C'est quoi? Shelot et gamgem. Que tu ne vas pas hésiter, tu ne vas pas bégayer. Ouais. Pour répondre. Tu sais, tu réponds. Tu sais pas, tu dis je ne sais pas. Tu dis pas, oh, vous savez, on peut dire comme ça, on peut dire comme ça. Il dit le Rav Yitzhak Gutner, te gam gem en hébreu, ça veut dire bégayer, d'accord? Ça veut dire hésiter. Mais lui, il dit, c'est quoi te gam gem? Te gam, guimel même, te gam gem. Il dit, al tomar, gamze ve gamze. Ne dis pas, on peut dire comme ça et on peut dire comme ça. Non! Tu dois dire comme ça. Mais non, je vais pas vous mentir qu'il y a un Rav qui peut dire comme ça et un autre qui peut dire comme ça. Et ils disent pas la même chose. C'est pas grave. C'est pas grave. Parce qu'ils ont chacun une personnalité, ils ont chacun une neshama, ils ont chacun une vision des choses. Et toi, tu vas coller plus avec ce rave-là qu'avec ce rave-là. Mais quand tu as pris une halakha d'un rave, tu peux pas aller chez un autre. Pour dire, on peut pas trouver... Ah non. Parce que toi, t'es entier, tu vis ce que tu ressens. Tu vas pas commencer à dire, je vais en prendre trois, et après je vais choisir ce que je ressens. Alors tu sais pas ce que tu ressens. Donc d'abord, la personne, elle doit chercher la clarté. Parce que c'est le manque de clarté qui amène tous les problèmes. Maintenant, pour atteindre la clarté, il faut beaucoup étudier. Il faut beaucoup se gâter la tête. Ça, on a dit la différence. La Gemara, elle est là pour t'apprendre à réfléchir. Les gens, ils comprennent pas. Les gens, ils croient qu'on sait réfléchir. Il faut apprendre à réfléchir. C'est quoi la Gemara? Tu as la Mishnah. Après, tu as la question. Là, tu as la Gemara. Dans la Gemara, tu as une question, une deuxième question, une troisième question, une réponse, une deuxième question sur la première réponse, une troisième question sur la deuxième réponse. Après, tu as le commentaire de Rashi avec des questions. Tu as le Tosfot qui pose des questions sur le Rashi. Après, tu as le Ramban qui pose des questions, le Rashba qui pose des questions, le Ritva, le Roche, Après, c'est la Haronim. Après, donc, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si tu as une construction hyper complexe de monter de tous les côtés. Et toi, tu veux réfléchir à l'intérieur. Faut que tu rentres d'un côté et que tu sors de l'autre côté. Donc tu vas être obligé de réfléchir. Et tu peux pas dire des bêtises. Vous comprenez? Quand vous donnez un certain niveau d'interprétation à un passage de Baudelaire, vous pouvez dire pratiquement n'importe quoi. Et personne pourra vous dire, c'est pas ce qu'il voulait dire Baudelaire. Rimbaud, c'est encore plus facile, surtout si vous vous aidez un peu comme Rimbaud s'aidait. Peut-être pour ça qu'il s'appelait Rimbaud, peut-être. Oui. Mais quand vous rentrez dans la Guémara, vous pouvez pas dire n'importe quoi. Parce que quand vous dites quelque chose, Rashi te dit, je suis pas d'accord. Le Ritva, je suis pas d'accord. Le Rashba, je suis pas d'accord. Tu dis, bon, il y a le Rashba et il y a moi. Non, non, il y a pas. Quand le Rashba, il est là, toi, t'as disparu. C'est rien. T'es zéro à côté de lui. Donc, il faut que tu t'arranges avec lui. Eh ben, au Rashi, il y a tellement de commentateurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu trouves un truc que personne n'a jamais dit, sur 3500 ans et sur plus de 400 000 commentateurs, si personne l'a dit, tu peux pratiquement avoir une assurance. C'est que c'est faux. Vous comprenez ou non? Mais si tu dis une chose et que tu vois dans le Rashba, tu sais que tu commences à devenir intelligent, toi. Et si tu vois dans le Tosfot, et si tu vois dans le Ramban, et si tu vois dans le Ritva, alors ça veut dire que tu commences vraiment à devenir haham. Donc qu'est-ce qu'elle te fait la Torah? La Torah, on dit Ameya Sheret et Tadaat, elle rend la tête droite. Parce que toi, tu viens par là, elle te dit par là, par là, par là, par là, par là. Et à la fin, tu sors net. C'est comme ça. Parce qu'il n'y a pas de compromis dans la Gemara. Encore une fois, vous comprenez ou non? Moi, j'ai fait de la philo, moi aussi.
J'étais à Hippocagne à 18 ans. J'ai discuté avec des doctorats de philo pendant 3h30. Et combien de compromis? Combien? Pour que au bout de 3h30, il te dit « Allez, faut pas trop gamberger. » Comment ça, gamberger? Faut pas se casser la tête? Je comprenais pas ce qu'il voulait. J'étais nié à l'époque. J'ai dit « Comment un type, il a un doctorat? Moi, j'ai pas passé le bac, lui, il a le doctorat. La philo, c'est ça s'arrête jamais. C'est pas vrai. Ça fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et puis après, ça fait comme ça, comme ça. Si tu peux emballer encore des petites jeunes de 28 ou de 24 ou de 18 avec un doctorat de philo, c'est bien, ça sert à quelque chose, un doctorat de philo. Ah, c'est à ça que ça sert. Je comprenais pas. Moi. C'est à ça que ça sert. Moi, je croyais, la pensée, c'est un météorite. Il démarre à un moment, il s'arrête pas. Tu meurs dans la lumière. C'est ça, mais je pensais que c'est comme ça la vie. L'autre, j'ai dit, il n'est même pas à moitié du parcours, il a déjà éteint la lumière. Il dit, mais non. Je veux faire de la communication, je rentre dans une boîte, je vais faire de l'audit en ressources humaines.
Hein?
T'es malade. À quoi le cerveau? Le cerveau, c'est pour ramasser de l'air. T'as pas besoin de ça? Tu prends une pelle, tu creuses la montagne, tu vas bien trouver quelque chose, non? T'as besoin de cerveau. Quand la pelle, elle a un cerveau, la pelle. Regarde la pelle, hack. Et la pioche. C'est ça ta tête? Et on tombe de haut. Exactement pareil. Donc quand quelqu'un y rentre, d'abord il doit apprendre à réfléchir. Et quand tu apprends à réfléchir, tu vois en fin de compte que rien n'est évident. Parce que c'est quoi le grand piège du cerveau? C'est quoi ce qu'on appelle le prêt à penser qui est vendu dans la rue? C'est que les gens y croient que c'est évident, mais c'est évident. Tu dis à quelqu'un par exemple, il faut pas voler. Bah ouais, ça va, il faut pas voler. Et c'est quoi voler? Eh ben voler. Voler, c'est prendre un objet à quelqu'un d'autre avec l'intention de le garder. D'accord? Donc si tu prends, mais sans l'intention de garder, ça s'appelle emprunter. Maintenant, si tu as l'intention de garder, mais que tu ne prends pas, ça s'appelle un fantasme. D'accord? Maintenant, si tu prends un objet à quelqu'un, alors que cette personne-là, tu lui as enlevé la propriété de l'objet. Mais ça, c'est valable seulement pour quelqu'un qui peut prouver que l'objet lui appartient. Parce que si tu lui as enlevé un objet que lui ne peut pas prouver sa propriété, donc tu ne l'as pas volé, puisque ce n'est pas à lui. C'est-à-dire que je ne peux pas enlever quelque chose à quelqu'un à qui ça n'appartient pas. Donc si toi, tu n'as pas les papiers de ton vélo et que moi, je prends le vélo, je n'ai pas volé un vélo. Mais je l'avais dans les mains. Eh bien, prouve-le que c'est à toi. Maintenant, regardez bien. Si au lieu de voler le vélo ou de voler une maison par exemple, tu rentres chez quelqu'un, tu sais que le notaire il a brûlé, il n'y a plus de titre de propriété, tu prends le type, tu le fous dehors, tu dégages, tu dis voilà je suis là maintenant, vas-y va prouver que c'est à toi. Est-ce que je lui ai volé ou non? Je lui ai pas volé sa propriété, elle est là. Maintenant je lui ai enlevé la possibilité de l'utiliser. Maintenant je vais dire mieux. Puisque ne peut être considéré comme un vol que prendre un objet que la personne à qui je le prends, elle peut prouver que c'est à elle. Vous me suivez? Ça va? Maintenant, si je détruis un acte de propriété, donc la personne maintenant, si on lui vole l'objet, elle pourra plus prouver que c'est à elle. Donc quand je détruis l'acte de propriété, est-ce que j'ai volé ou non? Tu sors de chez le notaire avec l'acte de vente. Je prends l'acte de vente, je le brûle. Tu me dis, tu m'as volé. Quoi, je t'ai volé? 3 feuilles de papier? Tiens, voilà 3 feuilles. Mais il y avait écrit quelque chose dessus. La connaissance, ça n'a pas de valeur. L'encre, tiens un stylo. Mais ça représentait ma maison. Donc maintenant, personne, n'importe qui peut me la prendre. Donc est-ce que détruire un acte de propriété, c'est considéré comme un vol? Pas évident. Si moi, je prends un objet de chez toi, alors que toi, tu aurais pu me le vendre, c'est considéré comme un vol. Mais si moi, je profite d'un objet et je te le laisse. Par exemple, tous les jours, je rentre chez toi, je regarde l'heure. Toi, tu m'en démontres. Je rentre chez toi, je regarde l'heure. Je sors. Donc, j'évite d'acheter une montre. Donc, toi, tu me dis, mais normalement, tu devrais acheter une montre. Je dis, pourquoi je vais acheter une montre? C'est gratuit. Toi, tu me dis, mais si toi, tu profites, il faut que tu payes. Je dis, je ne vais pas payer, puisque de toute façon, moi, quand je profite et que ça te manque, moi, je te prends une pomme. Donc, c'est normal, je t'ai enlevé la pomme, je te mets de l'argent à la place. Mais si je peux profiter sans que ça te manque, pourquoi je vais te payer? Je te dois rien, parce que je t'ai rien pris. Mais tu m'as pris, puisque tu as gagné quelque chose. Moi, j'ai gagné, mais toi, tu n'as pas perdu. Or, moi, je dois compenser un manque. Quand je t'ai pris quelque chose, mais si je t'ai rien pris, je te dois rien. Alors je t'ai volé ou non? Maintenant moi, je vois un voleur qui sort de chez toi avec un portefeuille. Ouais. Donc toi, tu vois que le voleur te l'a volé. Et tu vois le voleur qui rentre dans une voiture. Mais le voleur, il tourne au coin de la rue et il fait tomber le portefeuille. Et moi, je prends le portefeuille. Maintenant toi, t'es convaincu que le voleur a volé ton portefeuille. Et toi, tu te désespères. Tu dis, je crois plus. Et moi, j'ai le portefeuille. Et je vois que tu te désespères. Je suis obligé de te le rendre, non? Pourquoi? Parce que tu en veux plus? Je ne suis obligé de te rendre qu'une chose à laquelle tu tiens. Mais comme toi, tu n'y tiens plus parce que tu crois que le voleur te l'a pris. Donc moi, je suis obligé de te la rendre. Ou non, je suis obligé de te le rendre même si toi, tu n'y tiens plus. Si quelqu'un, il prend son portefeuille, il le pose par terre sur le quai de la gare et il prend devant l'avion, il le pose par terre et il s'en va. J'ai le droit de le ramasser, le portefeuille, non? Il dit, voilà, mon portefeuille, moi, je le pose par terre. Il y en a qui les mettent dans des coffres, moi, je le pose par terre. Et je pense que ça, pour moi, c'est comme ça qu'on garde un objet. Alors, je le pose par terre et je prends l'avion. Et c'est lui qui le prend, c'est un voleur. Si je le prends, je l'ai volé ou non? Puisque lui, il a une conduite irresponsable face à sa propriété, est-ce que je peux considérer que c'est encore une propriété ou non? Le Rambam, il dit, chacun, il décide la sécurité comme il veut. Donc, s'il pense que c'est encore à lui, j'ai pas le droit de le prendre. Et le Roche, il dit, puisqu'il est complètement irresponsable et lui-même, il met son argent en situation de perte, donc si je le prends, je vole rien. Ça, c'est le vol. Si je vous rentre dans le meurtre, vous allez péter les plombs. Le crime parfait. Vous comprenez? C'est rien. Je vous ai donné trois petites phrases de la Gemara. Rien du tout. On est tous les deux dans le désert. Moi, j'ai une cruche d'eau, toi, t'en as pas. On a juste assez d'eau pour qu'un des deux, en buvant, il survive. Si moi je la bois, je survis, toi tu meurs. Si on partage, on meurt les deux. J'ai le droit de te donner la cruche? Suicide. Je peux la boire devant toi? Mais en buvant, je te tue. Et si vous allez me dire, c'est des cas qui n'arrivent jamais, c'est des cas qui sont arrivés pendant la guerre à Botaille. C'est des cas qui sont arrivés pendant la guerre. Un type, il a volé la miche de pain de son copain. Et celui qui volait le pain, il savait que l'autre, qu'il a plus de pain, il va mourir. Et maintenant qu'il a volé le pain, il sait pas à qui il a volé, il fait tchouva. Il dit à qui je le rends. Maintenant, il y a un type dans le camp qui va mourir à cause de toi, parce que tu lui as volé son pain. Qu'est-ce que tu dois faire? T'as le droit de le manger ou non? C'était alaha le maasé, c'est que vous comprenez pas. C'est une alaha. Et si elle me dit, qu'est-ce que je dois faire? Pareil. Alors, est-ce que tu peux prendre un organe de quelqu'un? Alors qu'on n'a pas le droit de prélever un organe, mais si on l'a prélevé quand même, qu'est-ce que tu vas faire avec l'organe? T'as le droit de le prendre ou non? Mais pour toi, c'est une question de vie ou de mort. Mais on n'avait pas le droit de le prélever, alors on l'a prélevé, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et l'autre, il n'était pas mort. Et on a engendré la mort. Mais la définition de la mort d'après les juifs et d'après les goyim, c'est pas les mêmes. Parce que d'après les juifs, il faut que le cerveau et le cœur s'arrêtent. Mais d'après certains pays, si le cerveau s'arrête, c'est considéré comme une mort. Même si le corps ne s'arrête pas. C'est pour ça que dans les facs de médecine, souvent les corps à disséquer, ils sont noirs. Parce qu'en Afrique, la définition de la mort, c'est le cerveau. Donc le mec, il a le cœur qui bat. Et on a l'électrocéphalogramme qui est plat. Et on tue le mec. Comme ça, il y a des cadavres à envoyer à disséquer au kilo. Donc tu dis, j'ai intérêt à habiter dans un pays où la définition de la mort, elle est... C'est comme le coût de la vie. En France, on est un pays riche. On peut garder des gens dans le coma 10 000 francs par jour. Mais dans les pays pauvres, tu crois qu'on va les garder 10 000 francs par jour pour rien? Ben écoutez, il est mort. Ah bon? Ben oui, il est mort, c'est... Il est mort. Il est mort de quoi? De budget. C'est une maladie? Oui, c'est incurable, on sait. Il y a un taux de mortalité, mais effroyable. Du budget. Vous comprenez ou non? Donc, toutes ces blagues-là, définition de la vie, définition de la mort, définition de la responsabilité, définition de la propriété, définition du vol, définition du meurtre, tout ça, tu vas casser la tête toute la journée. Comment on tue? Qu'est-ce que c'est? Donc, tu vas apprendre à réfléchir. Et si tu vas me dire, mais j'ai fait une fac de philo, j'ai fait psycho, j'ai fait du droit. Qu'est-ce que je te dis? Que quand Napoléon, il a voulu écrire le code civil, il a réuni le Sanhédrin. Et que les trois quarts du code civil sont basés sur le Talmud. Alors, si tu veux faire du droit, fais du Talmud. Et la première année de droit, c'est la philo du droit, c'est le basique du Talmud. Je sais, j'ai parlé des heures et des heures avec des avocats et pas des avocats. Des types qui connaissaient tout par cœur. Et on faisait des comparaisons. Il m'a dit, mais là, vous parlez à un niveau de doctorat. Quel doctorat? Yeshiva. Ah ben oui, mais vous comprenez. Par exemple, il y a une loi en France que la conviction du juge est prioritaire sur les témoins. C'est que si le juge est plus convaincu de ta culpabilité, mais qu'il y a des témoins qui prouvent que tu n'es pas coupable, le juge, il est prioritaire sur les témoins. C'est extraordinaire. Donc, s'il n'aime pas ta tranche, tu es mort. En plus, tu es mat de peau et en plus, tu bégayes. Et tu parles même pas français. Tu es condamné avant de faire l'homicide. Même innocent, tu es déjà à moitié condamné. Je sais pas si vous... Il faut lire les... dans Libération, je crois que c'est. Les rubriques du tribunal. Mais on dirait de la rigolade. Je sais pas si dans Libération, je sais plus où c'est. Il y a un journal comme ça. Moi, je le lisais dans l'avion. Ils te mettent les comptes rendus d'audience. Mais des lourdeurs. Tu dis ça, c'est la justice. Et la justice est aveugle. Ah ouais, carrément, là. Carrément, c'est une cécité totale. Le contraire. Un Talmid Racham, tu vois, un Dayan, 80 ans, il voit clair. Clair. C'est comme ça, on peut dire comme ça. Permis, interdit, possible, pas possible. Ça, c'est pas pour toi. Non, ça, c'est pour toi. Oui, fais-le. Ça le fait. Comme ça, 5 minutes. Regarde, avec moi, j'étais en Israël. Shabbat, j'ai été voir des très, très grands. Mais j'ai dit, mais quelle clarté. Et tu dis, mais ils habitent à Paris, ces gens-là, ou quoi? Un cas, c'est comme ça, tu fais comme ça. Un cas, comme ça, tu fais comme ça. Quel type de personne? Comme ça, tu fais comme ça. La puissance, à vos tailles. Un Pentium 2000. Pas 4. Ils sont tous contents. Un Pentium 4, comme ça. C'est marqué ici. Que quoi? Que d'abord, la personne, elle va apprendre la Gemara. Et la Gemara, elle va lui apprendre à penser. Ensuite, la personne, elle va apprendre la Halakha. Et la Halakha, la loi, elle va lui apprendre à se déplacer. Pourquoi les gens, ils sont perdus? Ils savent pas. Il faut faire ça, faut faire... Qu'est-ce qu'il faut faire, monsieur? Alors, on fait quoi? Qu'est-ce qui est marqué dans le Shulchan Aruch? Tu dis, oh oui, mais deux fois, c'est trop. Écoute, le Shulchan Aruch, ça fait 3500 ans qu'il marche. Toi, qu'est-ce que tu fais maintenant? Toi, tu fais New Age, New Generation, d'un mouvement qui est né avant-hier aux États-Unis, qui s'appelle la perception de la nature au regard de l'autre, dans la volonté d'être en coefficient de proximité avec l'herbe. C'est un nouveau truc, ça vient de sortir. J'espère que ça va aider ma famille à évoluer. Écoute, t'as une action en bourse qui est depuis 3500 ans, elle est cotée. En plus, t'es juif par hasard, ouais. Tu viens nous chercher un traloed. Oula. Tu viens nous chercher un traloed qui vient de sortir avant-hier des États-Unis. T'es convaincu que c'est bien? Pourquoi? Parce que Madonna, elle fait la même chose. Ça doit être bien. Vu le QI de Madonna, ça doit être super bien. Les gens, ils adorent ce qui est nouveau. Mais je comprends pas si t'as le choix entre ce qui est nouveau et ce qui marche. Ça marche depuis 3500 ans. C'est pareil. Donc d'abord, il faut chercher la clarté. C'est-à-dire quelqu'un qui veut avoir des choix dans la vie, d'abord il doit avoir la clarté. Et la clarté, c'est la Gemara et la Halakha. Et ensuite, quelqu'un, il doit arrêter de chercher le compromis. Parce que c'est quoi le compromis? Vous savez, dans la vie, on cherche toujours un idéal sans défaut. Mais dans tous les éléments que tu verras, dans toute ta vie, il y aura toujours du bien et du mal. Toujours. Toujours. Tu veux un mari, il aura des qualités et des défauts. Pourquoi? Parce que toi aussi, tu as des qualités et des défauts. Premièrement. Tu vas dans un travail, il y a une qualité, tu gagnes bien, il y a un défaut, c'est loin. Tu en as un autre, il est en bas de chez toi, mais tu gagnes moins. Maintenant, tu décides ou tu es plus avec tes enfants et tu gagnes moins, ou tu es plus dans les transports et tu gagnes plus. Je dis, mais avec l'argent, je vais pouvoir donner à mes enfants ce que l'autre, il n'aura pas donné. Alors tes enfants, ils ont besoin d'un père ou ils ont besoin de fric, à ton avis? Exactement pareil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'avoir le choix, c'est de comprendre que dans la vie, il n'y a pas de compromis. Il y a ou A ou B. Maintenant, dans A, il y a du bien et du mal. Et dans B, il y a du bien et du mal. Maintenant, comment on appelle les gens, les adultes? On appelle les gens que dans un choix A, ils regardent le bien du A et ils assument le mal du A. Mais il y a des gens, qu'est-ce qu'ils voudraient? Ils voudraient le A, le bien du A et le bien du B. C'est pas possible. Tu peux pas avoir la beauté de ta femme et l'intelligence de la voisine. Tu peux pas, c'est impossible. C'est pas physique, c'est pas chimique. Tu dis, mais oh, écoute, on peut pas faire une espèce de compromis. Et ils le disent ouvertement. Aujourd'hui, ils se gênent pas. Tu te comprenais? Moi, avec ma femme, j'ai la stabilité. Mais avec ma secrétaire, j'ai la passion. Chemichemort. T'es malade ou quoi? T'es qui exactement, toi? Dr. Jekyll, Rav Hyde, t'es qui? Exactement pareil. Maintenant, je vais pas vous mentir. Les enfants, ils regardent toujours les deux côtés bien, des deux côtés, et ils rêvent que ça va arriver un jour. Et les adultes, ils regardent le côté mauvais, et le côté bon,
et ils assument le côté mauvais.
Et je vais vous dire mieux un jour. Je vais vous dire mieux. Ben c'est bien, c'est ce qui est marqué. Quand on a dit tout à l'heure qu'un homme, il doit savoir ce qu'on attend de lui, on a vu les problèmes que ça posait avec Noir. Et deuxièmement, il doit savoir si c'est possible d'anticiper. On a vu ce que ça a apporté à Abraham. Maintenant, ça, c'est quoi? C'est le regard qu'on a sur l'obstacle. Pourquoi? Parce que, en vérité, quand nous, on dit dans une vie, dans une situation, il y a du bien et du mal, à quoi il sert le mal? Les gens y croient. Moi, j'aimerais bien que ce soit bien. Mais non. La vie, c'est l'école du devenir. C'est quoi l'école du devenir? C'est l'épreuve. C'est quoi l'épreuve? C'est ce qu'Hachem te propose. Maintenant, dans n'importe quel chemin qu'Hachem te propose, il y aura toujours du bien et du mal. Pourquoi? Parce qu'à quoi il sert le mal? Le mal, c'est le système d'acquisition du bien. Tu ne pourrais être fier de ce que tu as acquis dans le bien que parce que tu as réussi à dépasser le mal qui était contenu à l'intérieur. Tu dis, tu vois, mon mari, il a des défauts. Eh ben, moi, quand je lutte pour aider mon mari à se séparer de ses défauts, à se dépasser, et moi-même, je lutte pour ne pas lui faire subir ses défauts, qu'est-ce que j'ai fait de lui? Quelqu'un d'entièrement bon. Donc, le défaut qui était censé être un obstacle, en vérité, c'est un moteur pour devenir bien. Nous, on voudrait au départ que tout aille très bien, comme à Disneyland. Il n'y a pas de problème. Tout le monde est souriant, les maisons sont bleues et jaunes, le ciel est bleu, tout le monde est sympathique, il y a de la musique dans la rue. C'est pas comme ça, la vie. Tu veux de la musique dans la rue? Tu veux de la musique dans la rue? Oh ouais, j'aimerais bien qu'il y ait de la musique dans la rue. Alors, il faut qu'il y ait de la musique dans ta tête. Les gens heureux, ils ont toujours une musique dans la bouche et dans la tête. Tu veux qu'il y ait de la vérité dans la vie? Il faut qu'il y ait de la vérité dans ta tête. Mais les tarbouleurs, ils ont toujours des menteurs en face d'eux. Oui, on m'a encore embrouillé. Et toi? Moi aussi, j'embrouille. Mais bon, mais... Tu veux de la beauté dans ta vie? Alors, apprécie la beauté des choses. Tu veux le moral? Alors, sois plus fort que les... La réalité. Il dit, oh, il pleut aujourd'hui. Et alors? Ben, il pleut. Ben, il pleut. Ah, ben, au Rachel, il pleut. Il pleut, c'est bien, il pleut. Tu peux pas danser sous la pluie? Et t'es obligé de leur faire un film pour qu'ils comprennent. C'est grave. Il a l'air holo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, puisque, en fin de compte, la vie, c'est l'école du devenir. Et c'est quoi le sacrifice? C'est ce que tu dois laisser de ton passé pour obtenir un avenir. Donc de toute façon, dans tous les choix, il y aura de la négation. Parce que la seule manière d'accéder à l'évolution, c'est justement en étant prêt à sacrifier. Mais alors, qu'est-ce qu'il t'a dit Dieu? Regardez bien. Dieu, il a dit sacrifice qui te dérange. C'est extraordinaire. C'est ce que tu prends comme un obstacle. En vérité, c'est l'école de la satisfaction. Parce que quand tu surmontes l'obstacle, tu atteins la satisfaction. Donc, il y a des gens qui vont se mettre devant le négatif et qui vont dire « Oh ben, c'est foutu, ça vaut pas le coup, c'est trop dur. » À cause de la négation. Alors, ils cherchent un endroit où il n'y a pas de négation. Mais s'il n'y a pas de négation, rabotaille, ça veut dire que tu es spectateur de ta vie. Mais s'il y a de la négation et que tu l'acceptes, ça veut dire que tu es acteur de ta vie. Si tu es acteur de ta vie, tout va très bien. Donc, on retombe dans la situation où de Noir, où tu es spectateur et tu attends qu'on te pousse. Ou de Abraham, et tu dis, mais il y a du bien là-dedans. Qu'est-ce qu'il a dit Noah? Noah, il a dit, c'est tous des réchaïms, c'est tous des pourris, on va les prévenir, et ben c'est pas grave qu'ils crèvent tous. Qu'est-ce qu'il a dit Abraham Avinu? Il a dit, lui, il est pourri, mais à l'intérieur, il y a du bien. Lui, il est pourri, mais lui, il y a du bien. Et lui, il y a du bien. Et lui, il y a du bien. Il a fait sortir le bien. Comme il a fait sortir le bien, hein, tout était bien. Qu'est-ce qu'il a dit Noah? Noah, il a dit, mais il y a du mal. Et il y a encore du mal. Et quand il y a du mal, ben, automatiquement, c'était du mal. Comme dans la vie, rabotaille. Or, comme nous sommes en situation tous les jours de choix, et qu'un homme, c'est un Dayan tous les jours, et que dans tous les choix, il y a du bien et du mal, alors tu vas être comme Noir, ou tu vas être comme Abraham. C'est ça le problème. Vous comprenez ou non? Mais on ne pourra pas y échapper. Moi, je vous donne un conseil d'amis. Renoncez à l'enfance. Parce qu'elle va vous coûter trop cher. Renoncez aux rêves. Parce que sinon, votre vie va être un cauchemar. Il y a un moment où il faut accepter que maintenant, on ne s'amuse plus. On y va. Allez, on y va. Allez, allez, lève-toi. Allez. Exactement comme une femme qui accouche. Vous n'avez jamais assisté à un accouchement? Non? Non? Il faut assister. Même si vous êtes célibataire. Vous assistez? Non, pas votre accouchement à vous. Et vous écoutez le docteur. Il dit, allez-y, madame, allez-y, allez-y, c'est bon, c'est bien, allez-y. Écoute ça. Et après, toi, tu te regardes dans la vie, tu dis, oh, écoute, j'y arrive pas. Et qu'est-ce qu'ils disent, tes copains? Allez, accouche, accouche. Allez, fais-nous le bébé, là, fais-nous ton bébé, là. Arrête. C'est pas vrai, il y en a 35 ans de gestation, wow. Tu vas nous accoucher un ingénieur. C'est marqué ici. Le choix, c'est quoi? On l'a dit, c'est simple. Akjouhou, il a créé cette école qui s'appelle le choix. Au niveau individuel, on a compris maintenant, le choix, c'est l'école du devenir. Si tu l'assumes, tu grandis avec. Si tu le refuses, tu crées des frustrations. Au niveau communautaire, c'est quoi le choix? C'est que toi, tu dois choisir ton groupe. Ou tu fais partie des groupes, des gens qui avancent et qui évoluent. Ou tu fais partie des gens qui freinent, soi-disant parce qu'ils ont des bonnes raisons. Ou tu fais partie de la masse qui attend. Tu dis, on va voir, on est spectateur de l'évolution de la communauté. Ouais. Jusqu'à ce que tu comprends pas pourquoi ton fils il t'amène une pizza taref. Ouais. Et ça va être quoi? Attention, que si tu es spectateur, sache-le, c'est ou Roma ou Rema. Ou ton investissement, tu vas le rattraper en cash parce que tu t'es investi et ça va être une protection pour toi. Toujours les gens ils se demandent, mais pourquoi ils s'investissent tellement dans la religion? Mais Rabotaille, on s'investit dans la religion parce qu'on sait que la religion pour nous c'est une muraille de protection. Nos enfants ils ont grandi dans un milieu. Ouais, nous-mêmes on a grandi dans un milieu, on a préservé un petit Beth Amikdash à la maison. Alors pour nous, notre choix, c'est devenu des murailles de protection. Mais si Chas v'Shalom, quelqu'un il veut pas, il dit non, moi pas de muraille, moi je vais attendre que les autres y plongent et moi je vais suivre. Je fais partie du peuple juif dans une certaine périphérie. Donc puisque tu fais partie d'une certaine périphérie et que tu n'assumes pas ton choix et que tu ne t'engages pas dans ta vision des choses, alors qu'est-ce que tu engendres? Au lieu d'engendrer une protection, tu engendres la colère d'Hachem, la colère des hommes. Ils sont en colère contre toi et ils te le disent, sale juif. Pourquoi il dit sale juif? Pourquoi il t'a dit sale juif? C'est une question. Et si vous allez me dire, vous comprenez, en ce moment, il y a de plus en plus d'antisémitisme. Je vais vous dire une chose débile, complètement débile. Je vous laisse réfléchir. Moi, ça fait 15 ans que j'ai cette tête. Jamais un goy m'a dit sale juif. Jamais. Il m'a dit Rabbi Jacob. En rigolant. Il m'a dit JR. Jamais un type, il s'est arrêté comme ça dans la rue, il m'a regardé, il m'a dit sale juif. Jamais. Pourquoi? Zorro aussi, on m'a fait une fois Zorro. Zorro. Une fois à minuit, je sortais de l'ascenseur, deux petites vieilles, elles ont cru que voyez l'ange de la mort. Je sortais avec le manteau comme ça, 2 mètres de haut, le chapeau. Tu sais, les deux petites vieilles de Moupet Show, là. À minuit, elles étaient... J'ouvre la porte. Oh chut, ne mourrez pas, j'ai dit, j'ai pas le temps. Ne mourrez pas. Elle m'a dit... Oh. Le constat... Attendez un peu. Si tu tires la Nechama quand je... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'investissement de quelqu'un à Botaille, il est jamais perdu. Alors qu'est-ce que tu vas faire toi? Tu vas faire partie des groupes des profiteurs qui peuvent se permettre encore de lever la tête en tant que juif parce qu'il y en a d'autres qui portent le drapeau? Ou toi-même tu vas dire, moi aussi je suis juif, qu'est-ce qu'il y a? Moi aussi. Ça, c'est au niveau communautaire. Et au niveau mondial, c'est quoi, Rabotaille? C'est dur au niveau mondial. C'est pas au niveau politique, ça sert à rien. N'en faites pas les alliés d'aujourd'hui, ils sont les ennemis de demain, c'est pas grave. Au niveau mondial, c'est que chacun, il doit sentir que le monde, il repose sur lui. Comme ça, c'est marqué dans la Gemara. À chaque minute, un homme, il doit se dire que le monde, il est chatsi zakai et chatsi chayav. Qu'il y a pile 50% de mitzvot dans le monde et pile 50% de averot dans le monde. Et que le monde y dépend de la prochaine mitzvah que je vais faire ou de la prochaine avera que je vais faire. Et moi je vais décider maintenant, je vais faire une mitzvah ou une avera. C'est ça le niveau mondial. Pourquoi? Pas l'inverse, nous qu'est-ce qu'on dit? Je t'en prie, avec tout le mal qu'il y a dans le monde, qu'est-ce que ça change si je fais une avera de plus? Allez tiens, je mange sur la bracha. Ou là je mange ta rêve, qu'est-ce qu'il y a? Ou alors ouais, c'est pas grave, allez. Avec tout ce qu'il y a, il n'y a pas. Le monde, à Botaille, il est dans un équilibre extrêmement précis. Et Akadosh Baruch Hu, il t'attend à toi. Et le monde entier t'attend à toi. Et chacun, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans un groupe, si chacun se sent responsable à 100%, le groupe y tient. Mais si chacun il se sent irresponsable,
en reportant la responsabilité sur l'autre, le groupe il est mort. Comme dans une société. Le patron, il amène tout le monde. Il amène les cadres, il amène les contremaîtres, il amène les ouvriers. Il dit à tout le monde, sachez, c'est votre boîte à vous tous. Maintenant, si les ouvriers gaspillent de la matière, si les cadres ils travaillent pas, si les contremaîtres ils distribuent pas les informations comme il faut, la boîte elle est morte. Si chacun il dit, mais je t'en prie, qu'est-ce qu'il y a en 6 mois? Si moi je viens 10 minutes en retard, et si moi je distribue pas ce qu'il faut, et si moi je glande un peu, et moi je rigole, qu'est-ce qu'il y a? La boîte elle meurt. Ça veut dire qu'on pourra jamais éviter qu'un ensemble, c'est un ensemble de détails. Maintenant, celui qui veut se perdre dans la masse, c'est parce qu'il n'a pas envie d'assumer. Donc, encore une fois, il joue l'enfant. Encore une fois, il attend que les événements, il fasse sa vie. Mais celui qui prend en main sa vie, il sait qu'à chaque fois, il est responsable. Donc, chacun à son niveau dans le peuple juif. Chacun à son niveau dans le peuple juif. Il prend sur lui d'accepter que par son positif, il peut faire avancer les choses. Et par son négatif, il peut faire plonger les choses. S'il peut le faire. Alors maintenant, il comprend ce qu'ils ont dit, les bénis Israël, un truc incroyable. Les bénis Israël, ils sont sortis d'Égypte. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Alors je vous le redis, je ne sais pas, peut-être que je vous l'ai déjà dit, je ne sais plus, parce que je commence à perdre les... C'est pas grave. Ils ont dit... Tov lanu avod et mitzraim mimotenu bamidbar. Je sais pas si je vous ai dit ce hidouche ou non. Ils ont dit, les bénis Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, regardez ce qu'ils ont dit à Moshe Rabbeinu. Ils ont dit, il vaut mieux pour nous de servir les Égyptiens, d'être les esclaves des Égyptiens, que de mourir dans le désert. Alors nous, on dit, mais comment ils ont pu dire une chose pareille? Abotai, avant de se demander comment, regardez, on va analyser ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, il vaut mieux pour nous de servir les Égyptiens que de mourir dans le désert. Pourquoi ils ont dit, il vaut mieux pour nous de servir? Ils auraient dû dire, il vaut mieux pour nous de vivre en Égypte que de mourir dans le désert. Ouais. Et deuxièmement, comment ils peuvent préférer l'esclavage d'Égypte à mourir dans le désert? En général, quelqu'un, il préfère mourir libre que vivre en esclave. Eux, non. Abotai, le pshat, il est simple. C'est quoi Midbar? C'est quoi le Midbar? Midbar, c'est le désert. C'est vrai. Non. Le Midbar, c'est quoi? C'est les circonstances de l'étude de la Torah. Comme ça, la Gemara, elle dit, en la Torah niknit, et là, mais chez Messi, Matsmo, Kamidbar. La Torah ne s'acquiert que chez celui qui se rend comme un désert. Ça veut dire quoi? Celui qui a appris à dépasser le matériel. Celui qui s'en fout du, parce que ce qui compte pour lui, c'est d'avoir le principal, l'essentiel. Alors, celui qui est prêt à même lui-même se considérer comme un désert, même si on lui marche dessus, même si on le remet en cause, c'est pas grave. Parce que lui, ce qui compte, c'est l'essentiel. Donc, celui qui se rend comme un désert. Alors, celui-là, il va acquérir la Torah. C'est marqué aussi, en la Torah niknit et la bémiche et mémi tatsmo aléa, la Torah ne s'acquiert que celui qui est prêt à mourir pour elle. La Torah, elle veut que tu meurs pour elle. Ah, tu dis alors qu'il faut mourir pour la Torah. Mais non, Charlot. Il faut sacrifier ce qui t'empêche de vivre. Encore une fois, la Gemara, elle dit dans Tamid, Arot, Selichiot, Yamout. Celui qui veut vivre, il doit mourir. C'est quoi mourir? Il doit tuer son Yetzerara. Il doit tuer sa bêtise. Il doit tuer ses intérêts. Il doit tuer sa lourdeur. Il doit tuer sa paresse. Voilà, il doit tuer. Quand il a tué tout ça, qu'est-ce qu'il fait? Il fait apparaître son être. Qu'est-ce que ça veut dire, Mimotenu, Mamidbar? Mourir dans le désert. Ça veut dire quoi, les bénis Israël? Ils ont dit, on préfère servir les Égyptiens. Mais c'est quoi les Égyptiens? C'est l'Égypte. C'est quoi l'Égypte? C'est Mitzrayim. C'est quoi Mitzrayim? C'est Metzarim. C'est quoi Metzarim? C'est les limites en hébreu. Les limites. Metzarim, ça veut dire les limites. Maintenant, pourquoi Avod? Pourquoi ils ont dit, on préfère servir l'Égypte? C'est-à-dire, on préfère être esclave de notre petitesse, de notre mesquinerie, de nos habitudes, de la mode et de la société. On préfère être esclave. Pourquoi ils ont pas dit, on préfère vivre en Égypte que de mourir dans le désert? Parce que même celui qui est esclave de la société, esclave de la bouffe, esclave de la télé, écoutez-moi bien, il sait très bien qu'il ne vit pas. Extraordinaire. C'est marqué ici. Il sait qu'il ne vit pas. Donc on ne pouvait pas dire, c'est mieux pour nous de vivre en Égypte, parce que celui qui est en Égypte, il sait qu'il ne vit pas. Il le sait qu'il ne vit pas. La preuve, le soir, il pleure. La preuve, à 45 ans, il se demande qu'est-ce qu'il a foutu de sa vie. Donc il sait qu'il ne vit pas. Donc celui qui n'existe pas, parce qu'il se réalise pas, parce qu'il lutte pas contre lui, etc., il sait qu'il n'est pas vivant, il le sait lui-même. Alors ils ont dit, les bénis Israël, on préfère servir en Égypte, ça veut dire quoi? Ne pas assumer, être porté par la situation, être comme Noah, plutôt que d'être comme Abraham. Et quoi? De mourir pour la Torah. Et c'est quoi mourir pour la Torah? C'est venir au monde, c'est exister, c'est assumer, devenir un adulte. C'est la Torah, elle te dit, tue le gamin, tue le rêveur, tue le mec qui est instable, tue le mec qui ne comprend rien, tue le mec qui ne veut pas accepter les choses. Et fais vivre celui qui assume, fais vivre le tzaddik, fais vivre l'adulte qui est en toi, vas-y, fais vivre l'homme qui est en toi, vas-y, accouche-le, fais-le vivre. C'est ça, Motenu Bamidbar. Maintenant, les Israélites, ils ont préféré ça, plutôt que ça. Oui ou non? C'était ça leur choix. Alors imaginez maintenant les bénis Israël, ils sont devant la mer. Akadosh Baruch Hu. Il leur dit, mais je comprends pas ce qu'ils veulent, ces gens-là, ils pleurent. Mais ils ont qu'à avancer. Alors il y a des gens, ils ont fait comme Noach, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on fasse? Il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Alors si Dieu veut bien nous ouvrir la mer, on va avancer. Alors Dieu, il dit à l'homme, mais écoute mon frère, quand t'es un enfant, le monde des adultes, c'est l'eau. Quand t'es immature, le monde de la maturité, c'est la mer. Tu dis toi-même, tu dis, oh, c'est pas la mer à boire. Regarde. Alors, qu'est-ce qu'il dit Hachem? Tu veux être un adulte. Tu crois qu'il y a de l'eau. Rentre dans l'eau. Rentre. Tu me dis, j'ai peur, il y a de l'eau. Alors, il y aura toujours comme ça. Il y a des gens à Bataille qui vont rentrer dans l'eau. Mais qu'est-ce qu'elle veut là, toi, là? Elle veut toi. Comment je cachère? Qu'on se couvre la tête, qu'on se snihout. Eh ben, on va se mouiller. Tu dis, ouais, mais le gars, il va te regarder. Le gars, il va te respecter. Et le contraire, tu fais pas ce que la Torah demande. Le gars, il dit, mais vous êtes juif, monsieur. Comment ça se fait que vous travaillez le samedi? Tu dis, ah, mais je suis un juif un peu. Pourquoi t'as honte? Mais mouille-toi, rentre dans l'eau. Pourquoi? Tu sais pourquoi rentre dans l'eau? Parce que de toute façon, cette eau, elle est virtuelle. Puisqu'elle n'a été créée que pour te mettre à l'épreuve. Donc on répond à la première question du cours. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait sortir les bénis Israël d'Égypte, il a fait des miracles. Et maintenant, il leur a fait l'épreuve de la mer, il les met devant la mer. Pourquoi il les a mis devant la mer? Parce qu'il leur a dit, habituez-vous les enfants, habituez-vous. Que toute votre vie, l'avenir, il sera toujours caché. L'avenir de l'extérieur, il sera toujours difficile, mais c'est pas grave. Les gens qui se mouillent, ils verront la protection. Et les gens qui se mouillent pas, ils verront que ça leur a coûté de profiter des autres. Et c'est toujours comme ça. Alors maintenant, toujours quelqu'un, il aura le choix d'être un adulte et d'être un tzaddique. Ou le contraire, Hasvei Shalom, de se laisser porter, d'être dans la périphérie du judaïsme, d'être, vous savez, comme dans la comète. Vous savez, la comète, il y a le noyau central, puis il y a plein de petites particules autour qui tournent. Alors toi, tu veux être quoi? Dans la queue de la comète du judaïsme qui traverse la création du monde depuis 6000 ans? Ou tu veux être dans le noyau de la comète? Et chacun, il a le choix. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Ah, oui. Il faut parler plus fort, parce qu'ils vont pas entendre. Oui. La réponse. Alors, si la personne, elle peut vivre avec toi, alors toi, tu as une mitzvah de partager. Mais si il y a de l'eau que pour une personne, et que c'est toi qui as la cruche, c'est toi qui bois l'eau. Parce que tu n'as pas d'obligation de mourir pour l'autre. L'autre, il n'a pas d'obligation de mourir pour toi, de t'empêcher de vivre en te prenant l'eau. Par exemple, si un, il vole la cruche à l'autre. Il y a une seule cruche. Il y a deux personnes. Et il y a assez d'eau que pour une personne. Si les deux, ils boivent, ils meurent. S'il y en a un qui boit, il aura assez de force pour aller jusqu'au point d'eau. Alors, celui qui a la cruche, il boit l'eau. Ouais. Mais il l'a. Il a une gourde d'eau. Il a une gourde d'eau. C'est celui qui l'a. D'accord? Non. Ils sont deux dans le désert. Il y en a un qui a une cruche, l'autre n'en a pas. C'est pas grave. Voilà, c'est ça les données, d'accord? Il y en a un qui a la cruche, l'autre n'en a pas. Mais alors on dit celui qui l'a. Ah, vous pensez qu'il y en avait une par terre et chacun il a convoité? Non. Ça, c'est un autre cas dans la Gemara, ça. Il faut étudier la Gemara. Oui. Alors j'ai dit que c'est incroyable. Parce que Rabbi Akiba, il a dit, toute ma vie, j'ai souffert pour accomplir ce verset. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toutes tes forces, même au prix de ta vie. Il voulait accomplir ce pasouk. Et le Kohen Gadol Zduki, qui était complètement à côté de la plaque, et qui était convaincu qu'il fallait faire les Ketoret en dehors du temple, en dehors du Kodesh, du Saint des Saints, il est mort pour ça aussi. Et il a dit, toute ma vie, j'aurais voulu accomplir ce pasouk. Donc, un, il est mort pour une erreur, et un, il est mort pour le vrai. Alors, j'ai expliqué de là que des fois, des gens, ils peuvent mettre toute leur vie pour rien. Et ils sont convaincus de ce qu'ils font. Ben c'est simple. S'ils voient que ça, ça les fait avancer, et ça fait avancer le monde, ils savent que c'est pour quelque chose. Mais s'ils remuent du yaourt, c'est pourquoi? Je vous ai donné l'exemple du type qui a vidé sa communauté avec ses mouvements de jeunesse. Je vous ai donné, vous vous rappelez ou non? Mais ça, je l'ai vu de mes yeux, ça. Alors ce type-là, vous croyez qu'il pense qu'il a fait quelque chose? Il a fait quelque chose. J'en connais un autre, il organisait des colonies mixtes, d'accord? Et je sais ce qui se passait dans les dortoirs. Donc toutes ces filles, tous ces garçons qui se sont détruits. Ouais. Maintenant, vous allez dire quoi? Il est content? Grâce à lui, les juifs, ils ont été en vacances? Je comprends pas, moi j'envoie ma fille là-bas. On me dit, tu sais, ta fille, à 12 ans, elle a fait des trucs bizarres avec un mono de 18 ans. Moi, je suis quoi? Moi, je fais quoi? Moi, je dis quoi? Je dis, mais j'avais confiance dans le directeur. Alors, quand le mec, il a fait ça pendant 40 ans, il est content de sa vie, non? Il n'a pas un petit peu à côté de la plaque? Oui. Ah, mais attendez, ça a répondu à votre question, là? Ah, c'est quoi la question? Ouais. Non, ça se complète. La Torah orale, elle explique la Torah écrite. Donc c'est comme la définition. Alors je vous dis, comme nous, on a reçu la Torah orale et la Torah écrite. Donc si quelqu'un, il fait que la Torah écrite, il fait pas la halakha. Maintenant lui, comme il pensait qu'on ne doit pas prendre la Torah orale, il a fait selon ce qu'il pensait, ce qui était faux, et il en est mort. Mais j'ai voulu montrer que comment quelqu'un il peut sacrifier dans l'erreur. Voilà, c'est ça un zdouki. Il ne tient compte que de la Torah écrite, pas de la Torah orale. Ouais, ouais. Et la falaise de l'autre côté. Ouais. Non, c'est les bêtes sauvages. Lesquelles? Non. Les bêtes sauvages, elles n'ont pas été détruites dans la plaie. Les animaux domestiques d'Égypte, ils ont été détruits. Mais non, les bêtes sauvages, c'est une des plaies d'Égypte, c'est que les bêtes sauvages sont rentrées, ils ont massacré tout le monde. Bah oui, bien sûr. Il restait encore des chevaux, mais il y a des commentaires sur ça, vous en faites pas, c'est pas un problème. Mais il faut parler plus fort parce qu'ils vont pas entendre. Oui. Alors, vous avez posé une bonne question. Je vous répète la question. Il y a des gens qui savent pourquoi ils sont venus dans ce monde. J'ai dit ça. Je me suis engagé quand même. D'accord. Attendez. Je vais sortir vivant. Donc, alors j'avais déjà répondu à cette question il y a quelques jours, mais quelques cours, mais je vous le répète. Nous devons nous préparer. Alors, je donne toujours l'exemple d'un agent secret. Un agent secret, on l'envoie en stage. Alors, il fait un stage intellectuel de réflexion. Il fait un stage de résistance au froid, au chaud, à la pression, à la douleur, à la torture. Il se prépare. Vous faites votre stage pour devenir un homme, pour devenir une femme. Vous apprenez la Torah pour devenir. Vous travaillez sur vos qualités. Vous développez votre Yirat Shamayim. Quand vous commencez à avoir une certaine plénitude de base, pour une personne qui a travaillé normalement, alors Akadosh Baruch Hu, il vous ouvre une porte. Il vous dit, tiens, toi, tu vas t'occuper des malades. Puis Tom, on vient chez toi, on te dit ça. Toi, on te dit, tiens, il y a un truc de Tzedaka, il faudrait ça. Toi, on te dit, tiens, il faut que tu fasses, tu t'occupes des... Quand j'étais à l'Yeshiva, je me rappelle, une fois, un bachour, il est venu, il m'a dit, mais j'ai l'angoisse parce que, qu'est-ce que je vais devenir plus tard? Je dis, de toute façon, mon frère, Dieu, il recherche des candidats. Si t'es bon, il te prendra. Si t'es pas bon, il te prendra pas, n'aie pas peur. Qu'est-ce que tu risques? Toi, ton travail, c'est quoi? C'est de devenir bon. Maintenant, devenir bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ta catégorie, tu développes toutes les choses. Tu deviens un espèce d'agent complet. Et quand tu es complet, après, on va orienter ta vie vers ça ou vers ça. Donc la mission, elle va venir d'elle-même. Maintenant, peut-être ta mission, ça sera d'être une mère de famille accomplie. C'est aussi une mission. Peut-être ça sera d'être une mère de famille accomplie et d'être aussi une responsable communautaire. Peut-être d'être aussi, d'organiser des chilourim sérieux dans Paris. Peut-être de faire un système pour que les malades, ils ne souffrent plus. Peut-être, il y a plein de choses qui vont se mettre en place. Mais notre travail à nous, c'est pas de chercher la mission. Notre travail à nous, c'est de nous préparer. Et quand on est prêt, Akadosh Baruch Hu, il donne les missions. Vous en faites pas. Il sait très bien. Il choisit ses employés de manière très précise. Donc il n'y a pas de malaise. Ça va? Parce que les gens, ils font le contraire. Les gens, ils cherchent la mission, ils se préparent pas. Et ils espèrent que la mission va les rendre aptes. Ça n'existe pas. Baruch HaShem. La femme, elle a moins besoin d'étudier la Torah. D'abord, sachez qu'avec ce qu'une femme doit étudier, elle en a déjà 8 heures par jour pendant 20 ans. Parce que la femme n'a pas la Guémara, mais la loi, elle doit la connaître. Elle, et tout ce qui concerne la pensée juive, elle doit connaître. D'accord ? Donc ça, déjà, il y a de quoi faire. Donc le Chumash, le Moussar, le Midrash, la Halakha, tout ça, la femme, il y a de quoi étudier, vraiment. Deuxièmement, la femme, elle a moins besoin de l'étude de la Torah. Pourquoi ? Parce que l'effet de la faute, elle n'a pas été chez l'homme que chez la femme. Chez l'homme, la faute a détruit l'instinct. Parce qu'elle a créé un écran entre l'instinct. C'est-à-dire que l'homme, avant la faute, il faisait la mitzvah instinctivement. Maintenant, puisqu'il a perdu l'instinct, donc automatiquement, il est obligé de lutter dans l'étude pour retrouver son instinct originel, sa spontanéité dans la mitzvah. Mais la femme, elle n'a pas perdu l'instinct. C'est pour ça qu'on dit que la femme, elle est plus naturellement proche d'Hachem que l'homme. Donc, c'est par exemple, pourquoi est-ce que l'homme, il a une mitzvah de prier tous les jours et la femme, elle n'a pas de mitzvah? Ou alors, elle a une mitzvah limite. En 5 minutes, elle dit, Dieu est grand, c'est bon. Pourquoi? Parce que l'homme, il a une mitzvah de prier. Parce que lui, il est obligé de faire un apprentissage à retrouver le contact avec Hachem. Que la femme, elle l'a beaucoup plus naturellement. C'est-à-dire que la grand-mère, elle va se mettre devant sa mezouza, elle va prier. Ça, pour un homme, ça va lui prendre 10 ans de prière avec Kavana. Ce que elle a naturellement, qu'elle ouvre la fenêtre et elle dit, Hachem, je t'en prie, aide mes enfants. Voilà. Donc, c'est pas parce que la femme, elle est moins, comme on essaye de d'enseigner dans certains endroits un peu réformés de la Baha. Au contraire. C'est que la femme, elle a plus au niveau de la croyance et de l'instinct. Donc, puisqu'elle est plus instinctive, elle est plus naturellement proche d'Hachem, parce qu'elle est plus proche de son âme. Mais comme malheureusement, l'homme, il est plus proche de son corps, et même des fois du corps de l'autre. Oui. Donc, on est obligé de le sanctifier d'une manière plus intense, avec plus d'actes. C'est pour ça aussi que l'homme, il a plus de mitzvahs positives, et la femme, elle en a moins. Parce que la femme, elle n'est pas liée. Toutes les mitzvahs qui sont liées au temps, l'homme, il les a, alors que la femme ne l'a pas. Parce que la femme, elle est moins liée au temps. Pourquoi la femme, elle est moins liée au temps? Parce qu'elle est moins intemporelle. Pourquoi? Parce que la femme, elle est plus essentielle. Donc, puisqu'elle est plus essentielle, elle est moins superficielle. C'est pour ça que la femme, elle veut toujours l'intériorité du mari. Parce qu'elle est plus essentielle. Et dans l'essentiel, il n'y a pas de temps. C'est intemporel. Donc quand la femme, elle va encourager son mari à étudier, elle va donner l'amour de la Torah à ses enfants. Et c'est son étude de la Torah, elle. Ah, vous allez me dire, mais alors, et si elle a envie d'étudier? Mais si la femme, elle développe sa féminité, rabotaille, elle a un instinct qui vaut largement ce que vous avez appris en 10 ans de Guémara. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on a voulu faire? On a voulu faire l'égalité des sexes. C'est ce que vous avez dit, l'égalité des sexes? Ça veut dire que les femmes sont devenues des hommes. C'est ça l'égalité des sexes. C'est que la femme, elle a renoncé à sa féminité. Mais la féminité, elle n'a pas besoin du cartésien. La femme, elle a l'instinct. C'est pas dire que la femme, elle est bête. Ça veut dire que ce que toi, tu vas développer par spéculation mathématique, elle va le ressentir par une perception du vécu intense. C'est terminé l'histoire. On perd notre temps. Moi, je connais des gens, ils ont fait des très hautes écoles de business. Et avant de signer un contrat, ils demandent à sa femme. Et sa femme, elle a passé le bac. Mais elle a un houche. Elle a un sens. Elle dit, chérie, laisse tomber. Il l'emmène, hein. Il l'emmène sur les sites. Hein. Il dit, on l'achète cette usine. Elle fait, je l'aime pas. Et il signera pas. Hein. Même s'il a une garantie de 100 milliards de dollars de gains, il signe pas. Et si une ou deux fois il s'est amusé, il s'est planté. Bien. Et la femme, elle a pas besoin de lui dire, tu as vu? Elle dit rien. Ce qu'on appelle en anglais hnina. Hnina. Elle prie pour lui. Vous avez compris maintenant? Et après, c'est pas mal la formule question. Hein, ça détend un peu. Il est 11h. Donc, c'est la question, il n'y a pas de rendez-vous. Il faut choisir. Et après, il n'y a pas d'autres questions? Il va y avoir des questions avec tous les cours.